podcast UJA de Nice.
Bonjour à tous. D'abord, merci pour tous ceux qui sont avec nous dans la salle et merci à tous ceux qui se sont connectés et qu'on voit caméra allumée. Ça fait plaisir de voir des visages. On est ravis de commencer cette formation sur le thème des saisies immobilières avec UJA aujourd'hui, menée certainement de main de maître par nos super consoeurs Stéphanie Obstert-Rotker et Gaëlle Arra, à qui je vais rapidement laisser la parole.
Merci Clotilde. Eh bien, nous aussi, nous sommes ravis d'être là. C'est la deuxième formation que nous faisons devant vous et nous avions déjà été sollicités il y a un an par l'UJA. On avait fait une, si vous vous rappelez, une formation sur transversale sur la saisie immobilière de A à Z. Et là, on a proposé un nouveau thème à l'UJA. Alors, je vais un petit peu vous reformaliser le thème parce que le titre qu'on avait donné a été un petit peu modifié, ça peut prêter à confusion. On voulait faire la procédure de saisie immobilière vue par le créancier inscrit et par l'adjudicataire. Là, vous voyez venir le plan. Donc, on ne parlera pas du créancier poursuivant, uniquement les créanciers inscrits. Et puis après, on aura une deuxième partie sur l'adjudicataire. Et pour ce qui concerne le créancier inscrit, on voulait aussi faire une vision transversale, c'est-à-dire de la prise de garantie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la prise de garantie, ça pourrait faire une formation à elle toute seule. Donc de la prise de garantie jusqu'à la distribution parce que le créancier inscrit a également un rôle à jouer dans la distribution. Alors on va commencer pour ne pas perdre de temps, ça fera venir ceux qui ne sont pas encore arrivés, par la prise de garantie. Donc quand on parle prise de garantie, on parle dans notre matière de l'hypothèque. Qu'est-ce qu'une hypothèque? C'est l'article 2385 du Code civil qui dit que c'est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui la constitue. Elle peut être conventionnelle, légale ou judiciaire. Le propriétaire du bien hypothéqué conserve l'ensemble des attributs qui sont liés au droit de propriété, ça je vous apprends rien. Il peut donc administrer librement l'immeuble, en percevoir les fruits. Il ne doit juste pas en diminuer la valeur. Et l'article 2425 du Code civil précise que pour être opposable au tiers, cette hypothèque doit être publiée et le mode légal de publicité, c'est l'inscription d'hypothèque au fichier au service de la publicité foncière. Alors, deux petits mots sur l'hypothèque conventionnelle parce qu'on n'est pas vraiment concerné. C'est le notaire qui généralement la prend et elle est souvent adossée à un prêt immobilier. La deuxième hypothèque, c'est l'hypothèque légale. Alors là, elles sont de plusieurs sortes. On ne va pas rentrer sur toutes les hypothèques, mais juste pour que vous vous rafraîchissiez la mémoire, il y a l'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers. Il y a l'hypothèque légale des mineurs et des majeurs en tutelle qui garantit la bonne gestion du patrimoine de la personne protégée. C'est le conseil de famille ou le juge qui détermine l'opportunité de requérir l'inscription d'une hypothèque et qui désigne les biens immobiliers qui seront grevés et qui fixe le montant pour lequel l'inscription est prise. Et puis vous avez aussi, ça c'est assez intéressant pour ceux qui font des affaires familiales, l'hypothèque légale des époux dans le cadre du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, qui permet à chaque conjoint d'inscrire une hypothèque sur les biens de l'autre. Cette hypothèque prendra effet à la dissolution du mariage, sous réserve que les biens immobiliers, bien évidemment, soient encore présents dans le patrimoine de l'époux débiteur. Et cette hypothèque peut également être prise dans l'année qui suit la dissolution du régime matrimonial et elle prendra date, comme quasiment toutes les hypothèques, à son inscription. Après, nous avons l'hypothèque légale dans le cadre d'une copropriété, et là, la spécialiste, c'est Gaëlle.
Alors, bonjour à tous, déjà. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu une réforme des sûretés en 2021, le 15 septembre. Ça a modifié un petit peu la vision des hypothèques et de la garantie qu'avait le syndicat des copropriétaires, dans la mesure où, j'allais dire, les vieux vont le savoir, on avait le super privilège qui était l'année en cours et les deux dernières années, et le privilège les deux années d'avant. Donc on avait à peu près un N-5 garanti. Qu'on appelait, qu'on différenciait comme ça, super privilège et privilège. Aujourd'hui, ça a disparu. Ça a disparu que, j'allais dire, dans les termes, super privilège et privilège. Quand vous dites ça, on sait que vous êtes vieux. Donc, vous ne dites plus ça. Et donc, en fait, maintenant, on a l'article 2402 et l'article 2418 qui du Code civil qui articule le privilège du syndicat, c'est-à-dire que le syndicat des copropriétaires a ce qu'on appelle une hypothèque occulte, c'est-à-dire que sur la créance de N-5, donc les 3 plus 2 qu'on avait avant, il n'est plus obligé d'inscrire une hypothèque légale comme il le faisait avant. On est garanti. C'est-à-dire que si vous arrivez en distribution de prix, si vous arrivez à une vente devant un notaire, le notaire fait opposition via le syndic fait opposition via l'article 19 comme d'habitude, et là vous avez votre N-5 qui est garanti, sauf le N-2, on va dire, le privilège, l'ancien privilège, qui vient en concurrence avec le privilège de vendeur et le privilège de prêteur de deniers, c'est-à-dire la banque. Voilà. Eux, ils vont venir en concurrence, mais en tout cas, les N-3 sont garantis à 100%. Vous me direz, alors, pourquoi prendre une hypothèque pour le syndicat des copropriétaires? Ça n'a aucun intérêt, puisque de toute façon, on a les 5 années garanties. Non, ce n'est pas aussi simple, malheureusement. Et c'est là où la réforme a manqué, j'allais dire, de finesse. Je dirais, ce n'est pas la première. Le problème est que, voilà, vous êtes dans une procédure de saisie. Vous êtes à l'audience d'orientation, il y a un surendettement. Vous êtes syndicat des copropriétaires, créancier inscrit. Le surendettement, ça dure minimum 2 ans. Quand vous allez arriver à la nouvelle audience d'orientation, c'est-à-dire ou à la distribution du prix, le N-5 de la première audience d'orientation n'est plus le N-5 de la distribution du prix. Donc ça fait que votre créance qui était à l'époque garantie ne va plus l'être. Parce que justement, c'est un compte à rebours. Donc le jour où vous allez faire votre distribution du prix, on va dire 2 ans après, vous allez perdre 2 années qui ne seront plus garanties. D'où l'intérêt quand même de prendre une garantie et de prendre une inscription, j'allais dire au fichier immobilier, conforme comme un créancier inscrit lambda, pour garantir la créance. Voilà. Si de même, le deuxième problème de cette réforme, c'est que le mandataire judiciaire en cas de procédure collective n'est plus tenu d'informer le syndic ou le syndicat des copropriétaires d'une procédure. Ça veut dire que quand il va prendre son fichier immobilier, le mandataire, s'il ne voit pas le syndicat des copropriétaires, vous n'allez pas être avisé. Donc on peut arriver à des situations où vous allez être forclos pour déclarer la créance, parce que vous ne saviez pas que le copropriétaire en question était en redressement judiciaire, ce qui n'est vraiment pas évident à savoir. Et vous pouvez faire surtout des voies d'exécution qui sont illégales parce qu'il est en procédure judiciaire, en procédure collective, pardon. Donc voilà, il y a ces deux dangers à éviter quand vous conseillez à votre client syndic ou syndicat des copropriétaires de prendre une hypothèque légale. Oui, vous êtes garanti si vous vendez aujourd'hui, s'il y a la mutation aujourd'hui, vous êtes garanti 5 ans, vous n'avez pas besoin de prendre une hypothèque. Si vous devez vendre dans 4-5 ans, s'il y a une procédure de surendettement, s'il y a une procédure collective qui suspend les procédures, je vous conseille de prendre une inscription. Voilà la difficulté, on va dire, de cette réforme et du problème de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires.
Et on en arrive à l'hypothèque.
Une question sur cette hypothèque occulte. Pour la faire inscrire, est-ce qu'on fait comme avant
Oui, tu fais.
Clients, on n'est pas obligé d'avoir un titre.
Non.
Voilà, on peut
l'inscrire. Oui, pareil, sur une mise en demeure RAR ou sur une sommation payée ou un commandement.
Merci.
Donc, on en arrive à l'hypothèque judiciaire, qui est l'hypothèque centrale pour la saisie immobilière et pour le créancier inscrit, et qui est peut-être intéressante à plus d'un titre. Vous avez un client pour qui vous allez engager une procédure qui peut donner lieu à la condamnation à des sommes d'argent. Vous savez que son débiteur potentiellement a un bien immobilier et vous voulez garantir la créance de votre client. Donc il faut penser à l'hypothèque judiciaire. Il ne faut pas être rebuté par l'hypothèque parce qu'effectivement on a l'impression que c'est une procédure compliquée. C'est pas si compliqué que ça. Et donc je vais vous en parler là en 2 minutes. Je vais vous donner les points essentiels. Donc l'hypothèque, évidemment, s'applique sur un bien immobilier, que ce soit une maison, un appartement, un terrain. Elle est régie par le Code des procédures civiles d'exécution. Elle est requise auprès du tribunal lorsqu'un créancier estime qu'il existe un risque de ne pas être remboursé. Le débiteur peut être un particulier, un professionnel, une société. Il faut une créance fondée en son principe et menacée quant à son recouvrement. C'est l'article L515-1 du Code des procédures civiles d'exécution. vous allez déposer une requête auprès du juge de l'exécution. Avec cette requête, vous déposez un état hypothécaire qui justifie de la propriété alléguée. C'est important, sinon on va vous rejeter votre requête. Il faut aussi un décompte de créances et un projet d'assignation, puisque vous allez inscrire une provisoire et ensuite une définitive. Ça veut dire que vous allez faire une procédure au milieu, une procédure au fond. Donc il faut votre projet d'assignation. Et surtout, alors ça c'est vraiment l'écueil, et c'est ce qui a motivé beaucoup de rejets et de requêtes, il faut une motivation extrêmement détaillée, précise, sur le risque inhérent à l'absence de remboursement. Si vous ne motivez pas ça dans votre requête, vous risquez d'avoir un refus. Si le juge estime que la demande est fondée, il peut autoriser l'inscription de l'hypothèque provisoire sur un ou sur plusieurs biens. Vous avez pu demander plusieurs biens, mais lui peut cantonner à un seul bien. C'est le juge qui décide. Ensuite, à peine de nullité de son ordonnance, le juge doit préciser les sommes sur lesquelles pour lesquelles la garantie est autorisée. Et il précise, comme je vous l'ai dit, aussi les biens sur lesquels elle porte. Ça, c'est une nullité de l'ordonnance si vous n'avez pas ces deux points-là. C'est intéressant pour celui qui pourrait contester votre hypothèque. L'hypothèque provisoire est valable 3 ans et c'est important dans vos logiciels, dans vos agendas, de bien noter les dates de l'hypothèque provisoire parce qu'il peut y avoir une nécessité de la renouveler si vous n'avez pas encore obtenu la décision qui vous permettra d'inscrire la définitive. Donc dans l'hypothèque, les délais, c'est très important, il faut bien les noter. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, il faut faire une procédure au fond pour obtenir un titre exécutoire, pour conforter l'hypothèque provisoire et qu'elle devienne une hypothèque définitive. Alors, l'inscription, ça je ne vous l'ai pas dit en préambule, mais bon, ça va de soi, l'inscription d'hypothèque requiert un avocat. Ça se fait par ministère d'avocat. L'inscription d'hypothèque provisoire doit intervenir dans les 3 mois qui suivent la décision du juge qui vous y autorise. Et il vous faudra mandater un commissaire de justice pour dénoncer l'inscription d'hypothèque. Et cette dénonce doit intervenir dans les 8 jours de l'inscription d'hypothèque. Comme je vous disais, attention au délai. Et l'inscription d'hypothèque prend rang à la date de son inscription. Et c'est très important la date de l'inscription de la provisoire, parce que même quand vous la confortez en définitive, le rang qui sera toujours pris en considération au moment des colocations pour vous payer, c'est la date de la provisoire. Alors, c'est intéressant ces formations parce que ça permet aussi de rafraîchir ses propres connaissances. En regardant le BOFIP, j'ai vu que lorsque vous avez des inscriptions provisoires qui sont inscrites à la même date, comment départager et choisir le rang? Alors, vous avez déjà vu tous, je pense, un état hypothécaire, vous avez vu que c'est intitulé rang numéro, bon, et ils sont obligés d'affecter les hypothèques selon le rang. Mais vous pouvez avoir au rang 7 une hypothèque inscrite le 11 avril 2024 et au rang 8 une hypothèque inscrite également au 11 avril 2024. Donc au moment où on distribue les fonds, qui va être le premier affecté? Donc le BOFIP est l'article 2453 du Code civil, 2425, pardon, alinéa 2 du Code civil dit que c'est l'hypothèque qui a été requise en vertu du titre le plus ancien. Voilà. Donc, ensuite, l'inscription doit mentionner le montant du capital, des accessoires, doit mentionner également la date normale d'exigibilité et éventuellement l'indication des droits déterminés avec leur mode de calcul. Ça concerne les intérêts. L'action au fond pour obtenir un titre doit être engagée dans le mois qui suit l'inscription de la provisoire. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? La publicité définitive doit être effectuée par contre dans un délai de 2 mois à peine de caducité de la publicité provisoire et de sa radiation par le juge de l'exécution. C'est les articles R533-4 et R533-6 du Code des procédures civiles d'exécution. Alors là, une petite jurisprudence intéressante aussi parce que j'ai eu le cas dans un dossier. On peut vous contester votre inscription provisoire. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 9 février 2012, qui a été suivi par d'autres jurisprudences, indique que la publicité définitive fait expirer le délai pour contester l'inscription provisoire. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, toujours penser à renouveler, donc à noter la date de vote définitive et à la renouveler quand elle vient à péremption pour ne pas perdre votre rang. Alors, oui, j'avais mis aussi deux notas là, mais je ne sais pas si on vous en reparlera dans le cadre de la distribution. Le créancier qui est attrait à la procédure, le créancier inscrit, hein, on est toujours sur le créancier, qui est attrait à la procédure parce qu'il a une hypothèque qui a été inscrite antérieurement au commandement de payer valant saisie immobilière. Ce créancier-là, on va lui dénoncer la procédure de saisie immobilière. Donc, il pourra normalement venir dans la procédure, faire sa déclaration de créance, on vous en reparlera tout à l'heure. Mais il y a le créancier qui inscrit son hypothèque après le commandement de payer, mais avant que la vente soit publiée. Alors celui-là, il doit être très très vigilant. Évidemment, quand il va lever un état hypothécaire, il va voir qu'il y a un commandement de payer sur l'état. Donc dans ce cas-là, il faudra, c'est l'article R322-13 du Code de procédure civile d'exécution, qu'il intervienne à la procédure en déclarant sa créance, arrêtée en principal, frais et intérêts, ça c'est la constante hein, de toutes les déclarations de créance, échues au jour de la déclaration, à peine d'irrecevabilité par acte d'avocat déposé au GEX, au greffe du GEX, dans le délai d'un mois qui suit son inscription. Donc il faut être hyper réactif. Sa déclaration de créance doit être accompagnée d'une copie de son titre de créance, du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. Ce sont les trois pièces qu'il faut joindre à votre déclaration de créance. Cette déclaration doit être dénoncée, et là aussi, attention au délai, elle doit être dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable au créancier poursuivant et au débiteur. Donc il faut être hyper réactif, c'est-à-dire que vous allez déposer au greffe votre déclaration, vous avez déjà avisé votre huissier que vous lui envoyez la dénonce pour qu'il la dénonce au débiteur s'il n'a pas constitué avocat. Bien évidemment, si le débiteur a constitué avocat, vous faites tout par RPVA, ça ne pose aucune difficulté. Alors ensuite, pour le créancier inscrit, article L322-14 du Code des procédures civiles d'exécution, le versement du prix, sa consignation, le paiement des frais de la vente purge de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente. Ça, c'est un article important qu'on oublie assez et que les notaires ne prennent absolument pas en considération quand ils revendent un bien qui a été vendu sur saisie immobilière, qu'ils le revendent à l'amiable derrière. Constamment, ils nous demandent les radiations, alors qu'a priori, on pourrait leur opposer cet article et leur dire que tout est purgé du fait de la consignation du paiement du prix et du paiement des frais. Un conseil pratique, vous devez renouveler votre inscription hypothécaire jusqu'à la publication du titre de vente de saisie immobilière, hein, d'adjudication, pour être valablement admis à la distribution. Après, j'avais préparé un petit paragraphe sur les frais et émoluments, parce que quand même, il ne faut jamais oublier nos frais et nos émoluments. Ils sont régis par les articles A444-197 à A444-199 du Code du commerce. Vous pouvez faire deux états de frais. On ne va pas les faire ici parce qu'on a pas mal de choses encore à vous dire, mais vous pouvez faire deux états de frais. Un état de frais pour l'inscription d'hypothèque provisoire et un autre état de frais pour l'inscription d'hypothèque définitive, dans lesquels sont prévus des émoluments qui sont quand même intéressants, qui font aussi partie de notre rémunération. Ces états de frais, pour pouvoir en faire valoir et en obtenir le paiement, notamment dans le cadre de la distribution, il faut qu'au préalable, vous les ayez fait vérifier par le greffe central, hein, c'est le greffe central, puis ensuite, vous les ayez, pas signifiés, mais adressés par courrier RR au débiteur. Puis ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous revenez vers le greffe et vous obtenez la formule exécutoire. Et vous pourrez vous faire payer dans le cadre de la distribution si vos clients ne vous les payent pas spontanément. Normalement, c'est une obligation légale hein, d'être payé de nos états de frais. Donc voilà pour les garanties qui ont été prises par le créancier inscrit. Ensuite, comme il a une garantie, et comme je vous l'ai déjà un petit peu annoncé, il va pouvoir intervenir à la saisie immobilière. Et c'est le deuxième partie de notre intervention.
Alors, vous êtes créancier inscrit. Une procédure de saisie immobilière commence. En tout cas, vous apprenez, vous avez reçu une dénonce, on va dire, et assignation à l'audience d'orientation. C'est obligatoire. Si vous êtes inscrit, vous l'avez. Vous devez déclarer votre créance. Alors souvent, et je le dis par expérience, les créanciers inscrits se disent « bon, ben, y a une procédure de saisie, je vais attendre la fin et on verra bien ». Non, il y a des obligations à accomplir, et si vous ne le faites pas, c'est quand même dommage, parce que, un, vous perdez votre rang, si vous ne déclarez pas votre créance, et deux, vous pouvez être oublié, ce qui peut arriver. Les obligations sont assez simples en soi, et c'est vraiment dommage de passer à côté, j'allais dire, compte tenu de ce qu'on peut remporter pour son client. Tout d'abord, vous recevez une dénonce, première chose à faire, nous, en tant que conseil, vous vous constituez auprès du greffe. Première chose, en disant, voilà, je suis là. On se constitue par RPVA, mais aussi on remet la constitution au greffe. La greffière y tient beaucoup, que je le dise, donc je le dis. Ensuite, le boulot qui a à faire pour nous, c'est la déclaration de créance. Très simple, enfin, j'allais dire, soit vous avez un titre, un jugement facile, donc vous prenez votre titre, votre jugement, vous dites en vertu de ça, on me doit, voilà, vous recopiez le parcier motif principal, genre article 700, il me doit tant. Très bien, simple. Si vous êtes syndicat de copropriétaires, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le N-5. Donc on différencie bien l'année en cours, les deux années, plus et encore les deux dernières années. Ne mettez pas un package avec le décompte du syndic joint en disant voilà, il doit 10 000 euros. Ça ne vaut pas déclaration, on va vous la contester à la distribution et vous allez avoir des soucis. Ça va être le bazar après. Faites une déclaration année par année, comme il faut, et vous... Alors, soit vous mettez, même si vous êtes vieux, vous pouvez mettre super privilège, privilège, personne ne vous en voudra, mais en tout cas, différenciez bien année par année. À ce moment-là, j'ai envie de vous dire, je reviens un petit peu sur ce qu'on a vous exposé au tout début de ce colloque, enfin, de cette formation. Vous êtes justement, vous apprenez qu'il y a la saisie immobilière, vous êtes conseil de syndicat de copropriétaires. Il y a une procédure de saisie. La procédure de saisie, ce n'est pas connu pour être super court. Dites, bon, j'en ai au moins pour 6 mois minimum. Qu'est-ce que je fais? C'est là qu'il faut inscrire la garantie. Parce que là, vous savez que le N-5, il ne sera plus garanti, justement. Parce que vous allez avoir 6 mois de distribution, 6 mois de procédure de saisie au bas mot. Donc, d'ici un an, votre client ne touchera pas les sous. Donc, c'est là qu'il faut se dire au client, je crois qu'il vaut mieux qu'on prenne une garantie. C'est plus sûr, comme ça on garantit notre actuel super privilège, mais notre ancien super privilège qui sera lors de la distribution. Ensuite, troisième, une fois que vous avez fait ça, cette déclaration de créance, vous la dénoncez au créancier poursuivant. Il a un avocat par RPVA, tout simple, avec les pièces justificatives, bien évidemment. Vous faites un joli bordereau avec votre titre exécutoire, etc. Et vous dénoncez tout ça par RPVA classique. Deuxième obligation, sinon ça ne sert à rien, vous déposez votre déclaration de créance, vos conclusions de déclaration de créance, en 2 exemplaires avec les pièces, au greffe, vous allez déposer votre petit dossier. Ensuite, vous avez fini, c'est terminé. Vous suivez juste l'audience, c'est-à-dire vous allez à l'audience d'orientation dire coucou, vous n'avez pas de dossier à remettre, tout est fait, vous avez déjà fait tout en amont. Alors faites attention, cette déclaration de créance, il faut la faire dans les délais de 2 mois à compter de la dénonce. Alors, des fois, il y a des erreurs qui sont commises par rapport à l'audience d'orientation. Vous pouvez avoir l'audience d'orientation et le délai de 2 mois a déjà expiré depuis bien longtemps. Ou vous pouvez avoir l'audience d'orientation et le délai de 2 mois n'a pas encore expiré. Donc, vous pouvez le faire après l'audience d'orientation. Ce qui compte, c'est la date de signification de votre dénonce. À partir de là, vous avez 2 mois. Après 2 mois, c'est mort. D'accord ? Ensuite, vous avez fait le boulot, il y a l'audience d'orientation, vous êtes présent, on a pris en compte votre créance, tout va bien. Vous n'avez rien à déposer, mais par contre, vous allez aussi connaître les autres créanciers inscrits. Vous allez connaître, l'étendue des dégâts, parce que c'est un peu ça. C'est voir où vous allez être, est-ce que vous avez une chance de recouvrer un jour vos sous, ou si vous voyez qu'il y a la banque qui a 300 000 euros ou 1 million d'euros de dettes, vous savez que ça va être un peu mort. Mais bon. Donc ça vous permet d'informer votre client sur le suivi de la procédure et voir l'investissement que vous allez, j'allais dire, donner à cette procédure. À l'audience d'orientation, il y a 2 possibilités qui peuvent se dérouler. Soit vous partez en vente forcée, le créancier poursuivant, le débiteur n'est pas venu par exemple, vous partez en vente forcée, là vous n'avez plus qu'à attendre, vous n'avez rien à faire. Soit ça part en vente amiable, le débiteur est là, il demande la vente amiable ou il a un conseil qui conclut à la vente amiable. Votre boulot ne s'arrête pas. vous continuez même dans la vente amiable, même si c'est l'affaire du créancier poursuivant et du débiteur, vous êtes là et il faut qu'on le sache. Le notaire a tendance à vous écarter. Donc il faut que vous fassiez absolument un courrier au notaire en disant voilà, je suis créancier inscrit, voilà ma créance, copie de la déclaration de ma créance. Voilà, que si jamais ça se passe après, dans une vente de hors tribunal, on va dire, c'est-à-dire que les délais de vente amiable n'ont par exemple pas été respectés, mais finalement on vend quand même, et voilà, c'est quand même possible. Vous n'êtes pas obligé de rester dans les rails de la vente amiable, vous pouvez aussi bifurquer sur une vente hors tribunal, mais il ne faut pas qu'on vous oublie. Donc pour ça, il faut suivre le notaire, parce qu'ils ont tendance déjà même à oublier le créancier poursuivant, alors vous, je ne vous explique pas. D'accord ? Ensuite, il faut vérifier aussi les créances. Par exemple, la créance du créancier poursuivant, déjà la première, et les autres. Quand vous faites justement pour savoir votre investissement dans cette procédure, voir si votre client va toucher quelque chose à la fin ou pas, il faut donc vérifier ses créances. Donc vérifier si déjà le titre est bon, parce qu'on ne sait jamais. Si jamais, par exemple, le créancier poursuivant est payé, vous pouvez vous subroger à lui après. Mais si sa procédure, par exemple, est bidon, ou s'il a commis une erreur, ou si son titre n'est pas est contesté ou s'avère dans une autre procédure nulle et que finalement la procédure de saisie est nulle, vous ne pouvez plus vous subroger. Vous ne pouvez vous subroger que si la procédure de saisie est nickel, j'allais dire, uniquement. Donc, bien vérifier les créances et vérifier également, ce n'est pas non plus obligatoire, mais c'est utile, le cahier des conditions de vente. Parce que vous êtes aujourd'hui créancier inscrit, mais qui sait, vous serez peut-être adjudicataire aussi. Et dans les cahiers des conditions de vente, il y a certains, on va dire, confrères qui ont un usage, on va dire, contestable, qui mettent une clause de solidarité des charges de copropriété dans les cahiers des charges. Donc,
pour celui qui viendra acquérir le bien.
Voilà. Donc ça peut être une très mauvaise surprise. Donc vérifiez les cahiers des conditions de vente, surtout si vous prenez un pouvoir, on va dire, en tant qu'adjudicataire, on y reviendra. Vérifier les conditions de vente, c'est pas une.
Mais parce que là, pardon, je te coupe la parole, mais parce que cette clause, si vous la voyez, parce que vous êtes allé voir en qualité de créancier inscrit le CCV, vous devez soulever l'existence de cette clause à l'audience d'orientation. Tu le dis après,
je t'en prie, vas-y.
Parce que l'audience d'orientation va purger toutes les difficultés et vous ne pourrez plus la soulever après. À Nice, elle est régulièrement écartée quand on la soulève. Voilà. Il faut la voir. Il les écarte. Oui.
Le nouveau aussi ?
Mais
le nouveau, je sais
alors,
pas.
Le nouveau, on n'a pas encore testé.
On n'a pas encore testé.
Mais il est d'usage normalement pour les créanciers poursuivants à Nice de ne pas mettre cette clause dans le CCV. Pour tout vous dire, en réalité, cette clause, elle vient de grâce. Donc, quand une procédure est faite par un grinçois avec un postulant niçois, il est possible que le niçois n'ait pas vu que cette clause avait été glissée. Jusqu'à présent, effectivement, Gaëlle a raison de le dire, on a un nouveau juge depuis peu de temps, donc on teste encore sa jurisprudence, mais le juge qu'on avait avant était quand même un peu dur, donc si lui l'écartait, je pense que... Mais en tout cas, il faut la soulever, pour qu'au moins un débat s'instaure et qu'elle ne vous soit pas opposable sans que vous ayez pu en discuter avant.
Alors, la Cour de cassation la déclare à ce jour valide.
Ah oui, pardon, en fait, c'est la cassation du juge.
Oui. Oui, la Cour de cassation, pour l'instant, dit c'est valide. Mais je peux vous garantir qu'il y a eu, outre des actions en responsabilité de confrères, même dans notre barreau, là-dessus, qui ont fait très très mal.
Parce qu'un CCV, c'est énorme, vous le savez, pour en avoir consulté, et qu'elle se glisse au milieu des toutes les clauses et documents, et que les confrères ne l'ont pas vu.
Voilà. Et après, le client se retourne contre vous obligatoirement. Donc, j'allais dire, la morale de l'histoire, c'est que même si vous êtes créancier inscrit, vous êtes parti à la procédure. Vous êtes parti comme le débiteur, vous êtes parti comme le créancier poursuivant. Ne prenez pas cette procédure par-dessus la jambe, parce que, j'allais dire, vous avez des droits, vous avez des obligations, il faut la surveiller. Comme une procédure TGI, j'allais dire classique, où vous êtes dedans. L'issue maintenant de cette audience d'orientation, j'allais dire. On part en vente amiable. Très bien, vous attendez la consignation. Bon, vous suivez bien entendu le notaire, ça je vous l'avais dit. Vous attendez la consignation du prix. Une fois que la consignation du prix est faite, le créancier poursuivant va revenir vers vous en vous disant « Bon, ça y est, on distribue, actualise ta créance. » Donc là, de nouveau déclaration de créance en actualisant, c'est-à-dire vous la refaites en fait la même, c'est pas une actualisation, c'est de nouveau une déclaration de créance avec, j'allais dire, ce qui est arrivé entre-temps durant la procédure pour que le créancier poursuivant puisse faire son projet de distribution, mais ça on en parlera à la fin dans le cadre de la distribution. Soit vous avez une vente, ce qu'on appelle hors procédure, c'est-à-dire que le débiteur n'a pas pu vendre dans les délais de la vente amiable qui sont, on va dire, relativement courts, puisque vous avez 3 mois et 3 mois, il n'y arrive pas, mais on va dire 2 mois avant la vente forcée, il a le notaire, il a le vendeur, il a l'acheteur, tout va bien, on peut vendre. Vous pouvez. Si l'acte est fait avant la vente, et que bien sûr votre client a les fonds avant la vente, c'est ça le plus important, c'est pas que l'acte soit signé, c'est que les fonds soient virés chez votre client, vous pouvez faire la vente quand même, et vous donnerez la main levée du commandement en fait au notaire tout simplement.
Il faut l'accord de tous les créanciers là, inscrits, ah oui, poursuivants, tout le monde doit être d'accord.
Mais c'est faisable. Voilà. Ensuite, c'est le thème que je vous avais abordé très brièvement en allant. Imaginons que la procédure se finit, enfin en tout cas pour le créancier poursuivant, il vous apprend par votre conclusion que la créance est payée pour lui, que donc il va se désister du débiteur.
C'est ma partie, ça.
C'est la tavernette la tienne, ça ? Eh bien, vas-y, je t'introduis. Quoi, franchement.
C'est moi la subrogée. Oui, alors, justement, voilà, je suis introduite. Le créancier poursuivant a été intégralement payé. Il vous annonce qu'il va se désister de la procédure. Et vous, bah, votre créance, elle est toujours en cours et vous avez donc la possibilité de vous subroger. Alors, que faut-il pour se subroger dans les poursuites du créancier poursuivant ? C'est l'article L311-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Il faut un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Il faut une décision passée en force de chose jugée. Ça veut dire que pendant tout le délai d'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'un jugement rendu par défaut. Ça veut dire qu'une ordonnance de référé ne constitue pas un titre exécutoire. Alors, l'ordonnance de référé, c'est un peu complexe, mais on peut engager une procédure de saisie immobilière. On peut débuter la procédure avec une ordonnance de référé, mais il vous faut une décision au fond pour vendre. Donc, autant vous dire que vous ne pouvez pas vous subroger avec une ordonnance de référé. Et enfin, bon, moi, je ne me sers pas tellement de ça, mais je l'ai quand même mis dans mon propos, les contraintes émises en matière de sécurité sociale ne constituent pas non plus des titres exécutoires au sens de ce texte qui concerne la subrogation. Qui peut se subroger ? Article R311-9, les créanciers inscrits et tous les créanciers énumérés au premier bis de l'article 2374 et 2375 du Code civil. Quand peut-on se subroger ? Alors, à quel moment ? À compter de la publication du commandement, on peut se subroger. Et à tout moment de la procédure. Alors, vous pouvez vous subroger à l'orientation, mais vous pouvez aussi vous subroger le jour de l'audience d'adjudication. Alors ça, c'est un petit peu plus de la haute voltige, hein, parce que cette subrogation-là, vous la faites verbalement à l'audience. Vous reprenez à votre compte toute une procédure que vous n'avez pas tellement pu vérifier. C'est pour ça que Gaël a attiré votre attention sur le fait qu'il faut bien, en qualité de créancier inscrit, on est bien participant à la procédure de saisie immobilière. Et il faut surtout un désistement du créancier poursuivant. Alors, au stade de l'audience d'orientation, le créancier poursuivant vous annonce qu'il est payé, qu'il se désiste, dépose des conclusions de désistement. Vous déposez, c'est obligatoire, des conclusions de subrogation. À ce stade, il faut des conclusions à l'orientation, contrairement à ce que je vous disais pour l'adjudication. Vous déposez des conclusions et ces conclusions doivent se faire au contradictoire du débiteur. Ce qui veut dire que si le débiteur n'a pas constitué avocat, il faut lui faire signifier par huissier de justice ses conclusions. Alors c'est vrai que cet énorme formalisme par rapport à l'audience d'adjudication où vous allez arriver, le débiteur n'est pas là, le créancier poursuivant vous dit « je suis payé, je me désiste » et vous vous dites bah, « je suis là, je vends ». C'est un petit peu paradoxal, mais la procédure le permet. Alors ensuite, la subrogation devra être mentionnée, ça c'est tout le formalisme de la saisie immobilière. Elle est mentionnée en marge de la copie du commandement au fichier immobilier et le jugement qui vous accorde la subrogation est aussi mentionné. Donc ça je vous ai dit. Ah oui, alors en cas de subrogation, ce que vous disait un peu Gaëlle tout à l'heure quand elle vous disait qu'il faut tout vérifier dans la procédure, c'est-à-dire que là, vous êtes subrogé dans les droits et obligations du créancier poursuivant et vous héritez de façon totale de tout son dossier. Vous êtes, comment dirais-je, obligé par la mise à prix qu'il a fixée, vous ne pouvez pas la modifier, et par toutes les clauses qu'il a mises dans son CCV, et par le fait aussi que s'il devait y avoir des enchères désertes, c'est vous qui seriez adjudicataire puisque vous êtes devenu poursuivant. Donc vous risquez. Donc le conseil, là, quand on conseille à son client, on lui dit, bon, le créancier poursuivant arrête tout, il est payé, est-ce qu'on se subroge? Attention au conseil que vous allez donner à votre client, parce que ça, il y a quand même pas mal de choses qui vont devoir être prises en compte, et notamment quand même le fait de risquer de rester adjudicataire si les enchères sont désertes le jour de l'adjudication. Donc comme je vous disais, la subrogation entraîne substitution dans les poursuites, dans les droits et obligations qui sont contenus au CCV.
Si je peux me permettre un tout petit pour le qui peut se subroger, si vous êtes toujours ma partie, hein, désolé, je suis syndic, pour les syndicats de copropriétaires, vous pouvez certes vous subroger, mais attention, il faut l'autorisation de l'Assemblée générale. Sinon, votre subrogation, elle n'est pas valable, elle est nulle. Donc, avant de dire oui, je me subroge, veillez bien à ce que votre client ait un PV d'AG qui a autorisé la saisie ou la subrogation. Voilà, au moins un des deux. Ah, dis-moi.
J'ai une et peut-être plusieurs questions sur cette subrogation. Donc, imaginons un créancier, une banque, qui lance une procédure, elle a 200 000 euros de créance, elle lance sa procédure sur cette base-là. Je suis syndicat des copropriétaires, j'ai 5 à 10 000 euros de créance. La banque se désintéresse puisqu'elle est réglée. Voilà. Si je suis subrogé, c'est aux mêmes conditions que le poursuivant.
Tout à fait.
Donc là, je prends clairement un risque d'enchère déserte. Mais là, c'est-à-dire, enchère déserte, ça veut dire quoi que ce sont les 200 000 de la banque qui sont pris en considération.
Non, quand le créancier poursuivant s'arrête, arrête sa procédure, c'est que lui, il a encaissé les fonds.
D'accord. Mais moi, si en chair déserte, je suis déclaré adjudicataire. Si
oui, au prix de la mise à prix.
Au prix au montant de la mise à prix, tout à fait. Et si tu as. Oui, donc
oui,
tu
mais voilà,
devras.
Mais si la mise à prix elle est à 100 000 euros et que j'ai que 10 000 euros de créance.
Eh bien, tu devras consigner. Oui, oui, tu devras
consigner. Tu devras consigner.
Oui, exactement.
Oui, oui, oui.
Tout à fait.
Et tu pourras revendre le bien, mais voilà.
Ah, ben pour des petits créanciers inscrits, ça peut être la roulette russe. Et sur une grosse mise à prix aussi, c'est généralement. Voilà. C'est pour ça que c'est important. Là, le conseil au moment de la subrogation est super important. Oui, oui, oui. Tout à fait. Au stade de l'orientation. Le créancier poursuivant qui s'arrête et contre lequel on demande une subrogation, il est tenu de remettre toutes les pièces de procédure au subrogé qui va en accuser réception. Et tant que cette remise n'a pas eu lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations. Ça, c'est un petit point qui ne correspond qu'à l'audience d'orientation, puisque quand on parle de l'audience d'adjudication, je vous ai dit, c'est très rapide, c'est tout, voilà. Donc la décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours sauf si elle met fin à la procédure et le jugement qui accueille une demande de subrogation est susceptible d'appel. Voilà. Et la subrogation n'est pas applicable à la procédure de distribution. Ça, vous verrez pourquoi, parce qu'en réalité, dans la procédure de distribution, lorsqu'un créancier poursuivant qui devient distribuant et défaillant, le créancier inscrit peut prendre le relais. Et ça, on l'évoquera enfin des possibilités pour le créancier inscrit. Qui sont maintenant, non, on en
oui.
Dit notre plan. Voilà, donc là, on en arrive à la distribution. C'est terminé. Soit le bien a été vendu à l'amiable, soit le bien a été vendu aux enchères. Vous, en qualité de créancier inscrit, vous allez, qui a donc pris sa garantie, qui a suivi sa procédure, vous allez être attrait à la procédure de distribution qui va être faite du prix soit de vente amiable qui est consigné à la CDC, soit d'adjudication qui est consigné à la CARPA. Donc là, c'est en binôme normalement. Hein,
oui, c'est ça.
Donc, la distribution. Alors, et là, je retombe sur ce que je vous disais sur la subrogation, c'est que l'article R331.1 du Code des procédures civiles d'exécution indique que la distribution est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou à son défaut du créancier inscrit le plus diligent ou même du débiteur si tout le monde est défaillant dans la procédure. C'est, donc je retombe sur ce que je vous disais sur la subrogation. Alors, malgré tout, il y est un usage, et c'est un peu aussi la confraternité qui prévaut en la matière, c'est que la plupart du temps, on attend quand même, on n'essaye pas de reprendre la main sur la procédure du créancier poursuivant, on attend quand même, on lui laisse le temps de mettre en place sa procédure de distribution. Et le créancier inscrit ne prend le relais que vraiment dans les cas de carence manifeste ou d'impossibilité. Mais sinon, je mets un bémol, c'est-à-dire qu'à Grasse, si vous vous endormez un petit peu trop, il y en a toujours un qui reprend la main. À Nice, on est un peu plus confraternel. À Nice, on est un peu plus confraternel et on se dit que si le confrère n'a pas encore commencé sa procédure, c'est qu'il y a certainement une raison. S'il tarde, bien évidemment, il est de l'intérêt du client et même du débiteur, parce que les intérêts continuent à courir pendant 6 mois à minima, de lancer la procédure de distribution.
Puis si on tarde, c'est souvent à cause de l'adjudicataire, il faut le savoir. Quelque chose doit être dit. Quand vous êtes adjudicataire, mais ça je vais y revenir plus tard, quand on va traiter l'adjudicataire, vous devez publier. Et tant que vous n'avez pas publié votre grosse, votre titre exécutoire, votre pavé, on ne peut pas faire la distribution. Donc, ce n'est pas possible. Donc des fois, on arrive à 1 an après la vente, 1 an et demi après la vente, et on n'a toujours pas distribué. Ce n'est pas parce qu'on ne fait rien. C'est parce qu'on n'a pas la publication. Alors, soit c'est parce que le marchand de biens qui a acheté attend tranquillement de pouvoir revendre le bien immobilier et après il vous donnera la publication, il fait les deux en un.
Et si tout le monde pense à...
Oui, voilà. Donc voilà, mais ça je vous en parlerai plus tard. Là, donc on était dans la distribution. Comment déclarer cette créance? Vous allez recevoir, ce que je vous avais dit, la sommation d'actualiser la créance par le créancier poursuivant une fois que ça débute. Et là, il faut faire attention, parce que dès que vous avez une sommation, il faut que ça fasse tilt dans votre tête. Vous avez 15 jours. Ce n'est plus les 2 mois, comme à l'audience d'orientation. Là, vous n'avez que 15 jours pour actualiser, on va dire, votre déclaration de créance. Actualiser, ça veut dire redéclarer sa créance. Ça ne veut pas dire juste mettre les sommes qu'il vous doit dans l'intervalle, parce que ça, ce n'est pas valable. Vous dénoncez ça toujours au créancier poursuivant. Et là, ensuite, vous recevrez un projet de distribution où il vous dit, voilà, chacun, combien on va toucher, ce qui reste au débiteur ou ce qui ne reste plus au débiteur, est-ce que vous êtes colloqué, est-ce que vous n'êtes pas colloqué. En principe, c'est assez lisible, on va dire. Ce projet de distribution, il se vérifie parce que, un, déjà, le créancier poursuivant, il n'est pas infaillible. Et deux, parce qu'il se peut que, justement, comme vous l'exposez, Stéphanie, en début de formation, il y a 2 hypothèques de même date, donc souvent les confrères ils disent non c'est la mienne qui passe, non c'est pas la mienne qui passe, c'est en fonction du titre exécutoire, donc ça il faut vérifier etc. Donc ça se vérifie un projet de distribution, il faut vérifier aussi, et là je vais taper dans mon propre camp mais c'est pas grave, les créances du syndicat des copropriétaires parce qu'ils ont tendance à mettre un peu tout et n'importe quoi dedans et hop là on y va. Non, il faut les frais de mise en demeure, les frais qui ne sont pas relevés par un titre exécutoire, ils sont expurgés, c'est les charges, les travaux et le titre exécutoire. Stop. Les honoraires avocats, les états datés à 500 euros, non, tout ça c'est expurgé, c'est pas possible. On ne peut pas charger la mule indéfiniment. Tu continues ou pas?
Oui.
Vas-y. La consignation.
Oui, je voulais vous parler des sanctions en cas d'absence de déclaration de créance. Si vous n'avez pas déclaré votre créance alors que vous avez été attrait à la procédure de saisie immobilière par la dénonce du commandement, que vous n'avez pas déclaré votre créance dans les 2 mois, vous perdez votre rang. Si vous avez déclaré votre créance donc dans la saisie immobilière et que après la sommation, vous n'actualisez pas votre créance par conclusion, vous perdez juste les intérêts. Et ensuite, c'est tout ce que je voulais vous dire. Par contre, dans le projet de distribution, on fait quand même mention des pertes de rang et on fait quand même mention aussi des pertes d'intérêt. Les colocations qui n'interviennent pas sont quand même mentionnées dans les projets de distribution. Donc ça, il faut vérifier. Et puis, j'avais aussi vu un petit point particulier dont je voulais vous parler. C'est que, oui... vous avez perdu votre rang parce que vous n'avez pas déclaré votre créance à la procédure de saisie immobilière, donc la première déclaration de créance. Malgré tout, au moment de la distribution, vous devez être sommé de participer à la distribution. Donc vous allez, votre client va recevoir, par exemple, on ne sait pas que vous existez, vous n'avez pas déclaré la créance à la saisie immobilière, vous n'êtes donc pas constitué, on ne sait pas que vous existez. Mais le créancier distribuant, au moment où il ouvre sa procédure de distribution, il lève un état, il sait qu'il vous a sommé que vous n'êtes pas venu, enfin qu'il vous a dénoncé le commandement et que vous n'êtes pas venu, il va vous sommer par voie d'huissier de justice, puisque vous n'avez pas d'avocat. Alors, c'est le moment pour le créancier inscrit de prendre un avocat et de faire quand même sa déclaration de créance, parce que même s'il a perdu son rang, il n'est pas devenu chirographaire et il pourra être colloqué en dernier rang. Donc, s'il y a de l'argent, il pourra quand même récupérer. Donc l'intérêt aussi, là, c'est peut-être d'estimer en fonction du prix d'adjudication qui a distribué, de l'état hypothécaire que vous avez dans votre dossier, où vous voyez les différents créanciers qui peuvent venir en rang utile devant vous, puisque vous avez perdu votre rang, si ça vaut le coup de mandater un avocat pour qu'il dépose des conclusions, s'il y a une chance d'être colloqué ou pas. Donc, le projet de distribution, il va être notifié à tous les créanciers inscrits, même à ceux qui n'ont pas déclaré leur créance. Et vous avez un délai de 15 jours pour contester le projet de distribution. Attention, c'est un délai très court. Cette contestation se fait par conclusion d'avocat. Alors, si, une fois qu'une contestation est faite, si le créancier distribuant va vous convoquer, les créanciers inscrits et le débiteur, à une réunion pour essayer de trouver une solution à cette contestation, cette réunion doit intervenir dans un délai qui est compris entre 15 jours et un mois qui suit la première contestation. Si vous parvenez à un accord, mais pour ça il faut que toutes les parties soient là, or si vous avez un débiteur défaillant, il ne viendra jamais, l'accord ne pourra pas lui être opposable par conséquent, on part directement en distribution judiciaire. Moi, je n'ai jamais vu le procès-verbal d'accord qu'on va... Parce que si vous obtenez un procès-verbal d'accord parce que toutes les parties étaient là, que c'est donc votre contractoire de toutes les parties, vous devez le faire homologuer par le GECT qui va lui conférer force exécutoire, après en avoir vérifié la régularité, bien évidemment. Bon, ça, moi, ça fait un petit moment que je fais les procédures, je n'ai jamais vu ça. Tu en as eu un ? Ah bah bravo. Et donc voilà, l'ordonnance qui statue sur la requête n'est pas susceptible d'appel, c'est uniquement un pourvoi que vous pouvez faire. Et si les parties ne parviennent pas à un accord ou si vous n'avez pas réussi à réunir toutes les parties, eh bien la distribution devient judiciaire. Si on n'a pas eu de contestation sur notre projet de distribution, la procédure de distribution amiable suit son cours et l'avocat distribuant va déposer auprès du juge de l'exécution immobilière une requête pour faire homologuer son projet de distribution. Donc cette requête, elle doit être déposée. Alors vous avez vu qu'il n'y a quasiment pas de sanction dans la procédure de distribution amiable. La seule sanction, c'est pour le créancier inscrit qui oublierait de déclarer ou qui tarderait à déclarer sa créance dans le délai de 15 jours qui suit la sommation. Tous les autres délais, la Cour de cassation l'a rappelé à plusieurs reprises, sont sans sanction. Et là, je vais vous parler d'un délai notamment qui dit que le créancier distribuant doit déposer sa requête aux fins d'homologation dans le mois qui suit l'expiration du délai de contestation du projet de distribution. Il n'y a pas véritable sanction, si ce n'est que le juge peut quand même le soulever et vous renvoyer directement en distribution judiciaire. Bon, en règle générale, ils ne le font pas, les juges sont quand même pragmatiques. Voilà.
En plus, ça lui fait une procédure
en plus. Ça lui alourdit l'audience, ça va l'obliger à rendre un jugement. Donc, mais ça a quand même été soulevé une fois.
Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est jamais
ouais. Pour un, par un à Versailles où on m'a dit bah, vous n'avez pas respecté le délai. Vous n'avez pas respecté le délai, allez hop, en distribution judiciaire. Voilà. Après,
la déconciliation ? Oui, je t'en prie.
Voilà, bah juste, c'est ce que j'allais dire. Quand le juge signe l'ordonnance que vous annexez à votre requête, qui est annexée à la requête, le créancier distribuant va solliciter la déconsignation des fonds au profit des créanciers inscrits.
Alors, deux cas. Soit vous êtes, après une vente amiable, donc il y a eu la vente amiable pendant l'audience d'orientation, etc., vente amiable homologuée.
Je te coupe parce que je voulais dire juste deux mots sur la distribution judiciaire, pardon.
Mais je t'en prie. Mais si, t'en as parlé, je crois.
Je vous ai dit qu'en cas de distribution judiciaire, il faut saisir le juge par conclusion. Suite à l'échec de la réunion, vous n'avez pas réussi à signer un PV, donc on doit partir sur une distribution judiciaire. Comme le juge n'intervient pas dans la distribution amiable, il faut réactiver le système judiciaire et on le fait par conclusion, dans lequel on explique pourquoi on en est là et quelle est la contestation. Voilà. Et le juge rendra un jugement dans lequel soit il homologue votre projet, soit il tranche la difficulté, il change la répartition. Et ce jugement est susceptible d'appel dans le délai de 15 jours qui suit la notification du greffe. Et c'est le seul cas dans la saisie immobilière de A à Z où il y a un caractère suspensif de l'appel. Et pour cause, puisque on se bat sur l'affectation des fonds, on va attendre que l'appel soit tranché avant de donner les fonds aux uns et aux autres. Voilà, c'était juste ce petit point que je voulais rajouter. Merci.
Donc, nous y arrivons et on arrive à la déconsignation des fonds. Deux cas, vous étiez dans une procédure de saisie immobilière où une vente amiable a été ordonnée. Dans ce cas-là, vous avez, bon, pareil, on retourne dans la distribution, votre ordonnance homologuant le projet de distribution. Là, il faut aller voir la Caisse des dépôts et consignations, parce qu'à l'issue d'une vente amiable, le notaire doit consigner le prix de vente, et uniquement le prix de vente, à la Caisse des dépôts et consignations. Là, vous avez deux voies possibles, soit la voie ancienne, on va dire, le courrier recommandé en disant, voilà, je suis le conseil du créancier inscrit. Merci de me déconsigner ma somme. Vous lui mettez évidemment tous les justificatifs, etc. Et le RIB de votre client, parce que maintenant, il n'y a plus de chèque. Il n'y a plus de virement sans RIB adressé par voie postale. Soit vous avez un site qui est assez relativement bien fait de la CDC, qui est fait pour nous, pour professionnels du droit, où vous pouvez demander la déconsignation en scannant les éléments, donc le projet de distribution, la requête, etc. Et vous pouvez demander la déconsignation, vous scannez votre RIB, vous le renvoyez par Internet, et hop là. Et un de ces quatre, vous recevez le virement sur le compte de votre client, ce qui est assez agréable. Ça, c'est en cas de vente amiable. En cas de vente forcée, j'allais dire, c'est pas loin, c'est la CARPA, c'est Cécile. Donc, elle consigne, bâtonnier de l'ordre, le prix de vente. Ensuite, l'ordonnance, en fait, c'est en principe le boulot du créancier poursuivant, mais il y en a qui ne le font pas. Ça dépend, qui le font, disons, que pour leurs clients, et le reste, bah, débrouillez-vous. En principe, enfin, en tout cas, moi, j'envoie l'ordonnance à la CARPA avec l'homologation, etc., l'ordonnance, les pièces justificatives, l'état sur formalité. Je lui demande la déconsignation des sommes et elle adresse le chèque à chacun et elle me l'envoie et moi, je distribue après aux confrères. Voilà, ça, c'est pour toi, ça, c'est pour toi, ça, c'est pour toi. Simple. Il y en a qui demandent juste la créance pour leur client, donc le poursuivant, et je veux dire, débrouillez-vous le reste. Donc là, bah, c'est pareil, vous devez faire la même chose, vous devez faire un bordereau à Cécile avec votre créance, la copie de l'ordonnance, évidemment, parce que vous la demandez au créancier poursuivant, et vous demandez la déconsignation directement, vous n'êtes pas obligé d'attendre le créancier poursuivant si jamais il veut laisser l'argent faire des intérêts à la CARPA. On ne sait jamais. Voilà, donc la déconsignation de la créance est relativement simple dans les deux cas, que ce soit une vente amiable ou vente forcée. J'allais dire, c'est la procédure la plus simple. Après, c'est le bout du tunnel, comme on dit.
Et ben voilà. Donc, alors, voilà, ça c'était la partie que sur le oui, créancier inscrit. En fait. Maintenant, on voulait un peu vous parler de l'adjudicataire, parce que tout le monde peut être amené à venir pousser les enchères le jeudi matin à Nice, et qu'il y a depuis... Il y a des petites difficultés quand même auxquelles il faut penser quand on essaye de porter les enchères et quand on est déclaré adjudicataire. Et notamment, je pense à une difficulté récente où un confrère dont je n'avais plus de nouvelles après qu'il ait fait payer le prix, payer les émoluments, payer les frais, etc., m'a répondu qu'il n'était pas mandaté pour publier le titre de son client. Donc on s'est dit peut-être qu'il faudrait rappeler un petit peu tout ce qu'il y a à faire quand on est adjudicataire, alors, toutes les précautions à prendre aussi, parce que ce n'est pas anodin d'acheter sur adjudication. Alors, donc on va vous dire déjà qui et comment porter les enchères.
Déjà qui et comment porter les enchères, d'abord pour qui porter les enchères, parce qu'on peut pas, c'est pas n'importe quel clampin qui vient vous voir au bureau en disant tiens je vais aller pousser de mille en mille, c'est facile à faire, non. Déjà, pas de débiteur, il faut vérifier dans votre cahier des charges quand vous allez on vous dit de pousser pour la vente du 18 avril, donc vous allez consulter déjà le cahier des conditions de vente et vous allez voir le nom du débiteur. Si votre client, il porte le même nom, c'est pas bon. Oui, non, merci monsieur, au revoir.
Non.
Non.
Attention, parce qu'on va aller avec les alliés.
Alors, ni les descendants, ni les ascendants. Voilà. Ensuite, vous vérifiez surtout la solvabilité de votre client. C'est-à-dire, d'accord, le chèque de banque, très bien. Alors, faites attention parce que je parle d'un ressenti. J'ai eu trois folles enchères, c'est-à-dire trois enchères désertes. Trois réitérations d'enchères, pardon, parce que j'ai reçu des avis de des confrères qui se portaient adjudicataires ont reçu des avis de virement sur le compte de la CARPA. Donc Cécile les avait reçus, il n'y avait pas de souci. Les avis de virement étaient faux. Chèque de banque, faux. Elle m'a fait le coup trois fois. Par trois confrères séparés. Et pas des confrères, j'allais dire, pas des jeunes premiers, voilà, on va dire. Donc, vérifiez la solvabilité de votre client, vérifiez le sérieux de votre client.
Tu dis vérifier un chèque de banque, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Oui, non, mais le chèque de banque, quand on le regardait bien, on voyait qu'il était faux, en fait. Mais bon, voilà. Mais comme nous, si vous voulez, créancier poursuivant, on le voit qu'à la fin de l'audience, et vite fait comme ça, en disant voilà, j'ai le chèque de banque, on n'a pas fait attention. Mais vous, oui. Vous l'avez depuis 15 jours ou depuis 3 jours, vous l'avez sous le nez. Alors oui, ou quand vous avez les chèques de banque le matin, faites gaffe, parce que c'est votre responsabilité qui est en cause, hein. C'est pas celle de votre client. Donc, déjà, qui porte les enchères, à faire attention. Plus de substitution, parce que ça je l'entends encore, plus de substitution d'adjudicataire. C'est pas j'achète pour ma grand-mère et c'est mon oncle finalement qui va l'acheter. Non, sinon vous refaites un acte de vente et vous payez deux fois les droits d'enregistrement, ce qui est un peu bête. Comment porter les enchères ? Donc on l'a dit, chèque de banque ou virement, alors réaliser, quand je dis réaliser, c'est pas l'avis de virement, c'est virement accusé les fonds à la CARPA au moins le mercredi, le mercredi.
Pardon, je coupe, vas-y. Mais en fait Cécile va vous sortir un accusé réception des fonds, parce qu'il y a des pays où ils peuvent pas faire de chèque de banque, notamment l'Italie, donc il faut faire créer préalablement un RIB. Tu allais le dire peut-être.
Oui. Ah pardon. Mais c'est pas grave, mais je t'en prie, tu fais ça bien aussi. Hein.
Non, c'est pas ma partie, je t'en prie. Non mais alors il faut que vous ayez en main l'accusé réception des fonds sur le compte de la CARPA.
Voilà, et le problème est que, alors avant, on pouvait le faire, on appelait Cécile, on disait il y a des fonds qui vont arriver, vas-y, pas de souci. Maintenant, c'est plus possible, parce que comme je vous disais, le RIB, maintenant, on ne peut plus les faire circuler comme ça. Donc il faut d'abord, si vous savez que votre client va faire un virement, que vous n'aurez pas un chèque de banque, il faut appeler la CARPA, lui dire attention, il va y avoir un virement, créez-moi un compte. Elle vous crée un RIB qu'elle vous met dans la case, parce qu'elle ne peut pas vous l'envoyer par mail, qu'elle vous met dans la case, et c'est avec ce RIB que vous donnez à votre client pour qu'il fasse le virement. Et le virement doit intervenir, j'allais dire intervenir vraiment, c'est-à-dire pas qu'un avis de virement, les fonds doivent être arrivés à la CARPA le mercredi au plus tard. Si le jeudi matin, et j'ai vu plein de confrères le faire, parce que je comprends, parce que c'est dans la panique, oui, l'avis de virement, il est là, j'ai eu l'avis de virement, c'est bon, les fonds, ils sont à la CARPA, c'est non. N'en voulez pas au confrère poursuivant qui va vous dire non, parce que voilà, quoi, c'est pas possible. Alors, tout dépend de la mise à prix, c'est 10% de la mise à prix. Ou 3 000 euros au minimum,
oui,
on va dire.
Jamais en dessous de 3 000. C'est-à-dire que vous avez une mise à prix à 25 000 euros, vous ne pouvez pas avoir un chèque de banque que de 2 500. Il doit être de 3 000.
Ensuite, ne pas arriver à l'audience d'adjudication en touriste, c'est-à-dire qu'il vous faut l'attestation de non-condamnation. Cette attestation de non-condamnation pénale, il y a deux types, pour personne morale et pour personne physique. Pour personne morale, elle doit être obligatoirement avec l'extrait CABIS, vous devez avoir les statuts de la société et la carte d'identité du gérant. Pour les personnes physiques, s'ils ne sont pas nés en France, il faut l'état civil des ascendants, père et mère. Alors, je vous dis ça pas pour vous embêter, c'est que souvent à l'audience, quand vous arrivez devant la greffière, et j'allais dire c'est trop tard, et que vous déclarez votre adjudicataire, elle vous dit, ben non, j'ai pas les ascendants, ah ben non, j'ai pas l'extrait CABIS, la vente est nulle, c'est terminé. À l'audience, ils déclarent la nullité de la vente et on repart, on refait la vente. Donc vous avez l'air un peu idiot devant votre client.
C'est quoi cette attestation
de condamnation ? Alors ça, tu les as sur le site du CNB, c'est une attestation en fait de non-condamnation pénale, c'est-à-dire pour démontrer...
C'est le client qui le déclare.
Oui, c'est ton client qui le signe. Oui.
On ne va pas demander à un judiciaire, mais c'est compliqué en fait.
Non, c'est juste une attestation, c'est sur déclaratif. Voilà, c'est juste voir si elle n'est pas marchande de sommeil ou des trucs comme ça, quoi. Voilà.
C'est en fait l'article L322-7-1 du CPCE. Donc, c'est la personne doit attester qu'elle n'a pas été condamnée à l'une des peines complémentaires prévues au deuxième du grand 1 de l'article 225-26 du Code pénal.
Voilà, il y a des modèles sur CNV qui sont très bien faits, voilà. Juste à les imprimer.
Donc, il y a aussi le Code de la santé publique qui est visé, le Code de la construction et de l'urbanisme. Donc, c'est prévu sur ton attestation.
Oui, c'est déclaratif, mais au moins, tu as dégagé ta responsabilité. Parce que si tu as une nullité de vente à l'audience, c'est ta responsabilité.
Et si tu ne la remets pas à la greffière, il peut soulever la nullité de ton
enchère. Pas qu'elle peut, c'est qu'elle la soulève.
Elle la soulève. Enfin, le juge.
Personne physique, aussi, indiquer le régime matrimonial, ça change tout. De vos clients, s'ils sont mariés, c'est sous quel régime, quoi? Séparation, c'est-à-dire qu'ils sont indivisaires à 50-50, s'ils sont en communauté universelle, c'est pas la même. Ça va avoir des conséquences après dans le droit d'enregistrement, dans votre publicité foncière, etc. Donc faites attention à ça. C'est pas parce que c'est monsieur qui est venu vous voir qu'il faut oublier madame. Ensuite, le pouvoir, il n'est pas obligatoire. Pardon. Mais je t'en prie.
Ma question a un rapport avec ce qui vient d'être dit. Je pousse les enchères pour monsieur et le chèque de banque, il a été édité par la banque. Donc, c'est un compte de l'autre époux, ça pose problème ou pas?
Oui. Ah. Il faut que les fonds viennent, que l'origine des fonds soit de celui qui déclare adjudicataire.
Sauf le test de mariage sous régime de la communauté avec un conjoint.
Oui, là, c'est pas un souci. C'est monsieur et madame qui sont propriétaires, donc là, c'est pas un problème.
Et là, on intervient pour qui? Pour monsieur ou madame, ou les deux, en fait?
Ah, bah, s'ils sont en communauté, tu interviens pour monsieur et madame.
Et madame, donc, ça veut dire que nos
attestations... Deux attestations. Deux attestations, et... Oui, oui. Et la déclaration d'identité qui indique les deux, d'où l'importance de noter le régime. Le pouvoir, il est plus obligatoire, mais sincèrement, je vous le conseille. Déjà, ça cadre votre client. Vous n'êtes pas là à attendre à l'audience comme ça, est-ce qu'il pousse, est-ce qu'il pousse pas, est-ce qu'on machin, est-ce qu'on est là. C'est stressant, sincèrement. Vous faites un pouvoir, vous dites, voilà, jusqu'à... Après, s'il veut bouger un petit peu et qu'il est présent à l'audience et qu'il vous dit, voilà, on pousse encore un peu, ça va. Mais au moins que vous ayez une vision de la chose, quoi, savoir si on pousse ou si on pousse pas longtemps.
Et puis en matière de responsabilité, c'est mieux aussi, oui, parce que si vous êtes adjudicataire à un montant qui ne correspond pas et qui vient vous dire, voilà.
Voir où madame n'était pas au courant que monsieur achetait. Non, mais ça arrive, vous rigolez, mais ça arrive, hein, je l'ai eu. Donc, faites-vous cadrer par un pouvoir, c'est même si ce n'est pas obligatoire, ça ne fait pas de mal. Sinon, vous n'êtes pas un papier prêt, j'allais dire. Ensuite, à l'audience même, une fois que vous avez tous vos petits papiers, votre chèque de banque, votre virement, tout est nickel, vous y allez.
J'ai une question.
Pardon.
Justement, par rapport au pouvoir, si jamais le client il nous dit jusqu'à 50 000 euros, et en fait, peu importe si on a un pouvoir jusqu'à 50 000 euros, si il nous dit oui, on pousse encore,
Alors, s'il est présent, oui. Imaginons, il n'est pas présent, il a eu un problème de voiture, il est coincé dehors, vous arrêtez à 50 000. Voilà.
Et quand vous ne sentez pas votre client, moi ça m'est arrivé une fois.
Voilà.
Tout à fait. Le client était présent à l'audience, on était bien en deçà du pouvoir qu'il m'avait donné. À la fin, quand il a été déclaré adjudicataire, je lui ai fait annoter le pouvoir, disant que il avait excédé le pouvoir qu'il m'avait donné. Et que, voilà.
Voilà.
Parce qu'après, c'est pas tellement à l'audience, ils sont tout contents, il y a une espèce d'adrénaline. Oui. C'est au moment où ils doivent consigner d'un seul coup. ça devient problématique.
Il doit avoir les fonds disponibles.
Pas forcément. Il peut constituer un prêt, effectivement.
Oui, vous avez après deux mois pour régler le prix de vente.
Tout à fait. Donc, tout à fait.
Vous avez le temps. Donc, l'audience, vous poussez de 1000 en 1000 en principe, bon, sauf des petits biens, vous pouvez pousser de 500 en 500, mais enfin, c'est assez rare.
C'est pas le texte en même temps. Je te coupe parce
que. Non, c'est vrai, c'est l'usage à Nice.
Voilà, l'usage à Nice, c'est pas le texte. Des fois, il y a des confrères rebelles.
Petit conseil de vieille et de. On n'attend pas la dernière minute, on se lève, on n'est pas assis, vautré sur son banc en disant 3000. Non. on se lève et on dit 3000. Et si on n'est pas familier de la juridiction, on dit son nom parce qu'il n'est pas censé connaître tout le monde. Parce que la greffière, à chaque fois, elle note, elle, qui a parlé et qui a dit le dernier enchère. Donc si elle ne vous connaît pas, voilà, ça ne coûte rien de dire Harare 3000.
Et c'est très intéressant d'avoir son primitif à la... Moi, j'ai eu le cas du client qui, justement, disait « Vous avez poussé d'un seul coup ». Et la greffière m'a fait une attestation parce qu'au plumitif, elle avait bien noté que j'étais montée tranquillement de mille en mille et que j'étais arrivée à son plafond. Et pas de bol, j'étais déclarée adjudicataire à son plafond. Et lui pensait que j'avais poussé d'un seul tenant. Donc le fait de pouvoir demander le plumitif de la greffière m'a permis de justifier au client que j'avais rempli mon contrat correctement.
Donc ensuite, on déclare si jamais vous êtes adjudicataire, vous déclarez le nom de l'adjudicataire, donc vous remettez ce qu'on appelle une déclaration d'identité à la greffière, c'est-à-dire vous remettez en fait votre pouvoir, mais sans prix, c'est un peu ça, parce que voilà, qui achète, à quel prix, quel bien, voilà, et vous signez.
Sous quel régime,
voilà, tout l'état civil complet, le plus possible. Voilà. Vous n'en mettrez jamais trop, dites-vous que voilà, allez-y. Vous donnez ça à la greffière, vous allez consigner votre chèque de banque à la CARPA et vous attendez que le créancier poursuivant vous écrive, qui va vous dire dans les délais de 10 jours après la vente, vous devez payer les frais et émoluments. Les frais, c'est-à-dire, c'est les frais préalables. Vous les aurez le jour de la vente ou quelques jours avant. C'est à peu près c'est mentionné sur les feuilles et puis c'est indiqué quand on poursuit la vente, le juge vous dit les frais préalables ont été taxés à la somme de temps. Voilà. Donc vous allez devoir payer ça, plus les émoluments.
Tu es encore sur ma partie, là ?
Mais non, je ne suis pas sur ta partie, je suis à la fin de l'audience. Super. Et voilà. Et après, tu vas attaquer. Voilà.
Alors, donc,
la surenchère. Oui, ça aussi, ça c'est une très bonne chose. Alors, ça, la phrase, elle est partie en désuétude, on ne sait pas pourquoi. Alors les jeunes arrivent maintenant, et c'est le jeune ou les vieux aussi, il y a des vieux comptables, pardon. Et donc ils arrivent, et voilà, c'est mon bien, et voici la déclaration d'identité. Non, c'est une audience d'enchère, c'est solennel, si on n'a plus les bougies, d'accord, mais quand même, il y a une phrase, c'est « plaise au tribunal de me déclarer adjudicataire du bien vendu au prix de, sous réserve de déclarer le nom de l'adjudicataire ».
Alors, elle hésite depuis la nuit des temps.
Non, elle hésite depuis la nuit des temps.
Non.
J'imagine que dans le code de procédure civile.
Elle n'y est pas. Elle n'y est pas.
Non, elle n'y est pas.
Par contre, en fait, la saisie immobilière, quand même, c'est quelque chose de très lourd. Généralement, ça arrive qu'on ait les saisies dans la salle. Donc, il faut quand même garder une certaine solennité. On est en train de vendre le bien de quelqu'un contre son gré. Même s'il sait pourquoi il est dans cette situation. Vous imaginez bien que les débiteurs ne le vivent pas super bien. Donc c'est vrai que garder une certaine solennité, c'est mieux, ça passe mieux. Si il entend des chiffres et puis d'un seul coup, les débiteurs souvent ils comprennent pas. Ils savent pas que c'est fini, ils savent, voilà. Donc c'est mieux de pouvoir dire cette petite phrase, ça pose.
Et dernier petit conseil, les autres adjudicataires qui étaient intéressés, restez dans la salle. Ne partez pas tout de suite parce que vous voyez que vous ne l'avez pas, elle vous en va. Vous ne savez pas ce qui peut arriver. Il peut ne pas avoir le chèque de banque, il peut avoir pas la bonne attestation. Si c'est nul, ça revient à l'audience. Combien de fois j'ai vu tous les confrères partir ? Et après, il y a le premier qui était là, et hop là.
Il l'a eu à rien de
voilà. Restez jusqu'à ce que la vente soit validée par la greffière.
Si le président prononce la nullité des enchères, on repart. Donc on repart de la mise à prix. Et donc si les confrères sont partis, forcément, ça ne remonte plus.
L'adjudicataire est une société étrangère, il y a des obligations spécifiques, notamment sur le plan fiscal, au moment de la déclaration d'adjudication.
Pas plus que ça.
Non, il n'y a pas d'identité.
Elle peut ne pas avoir de siret, en général, si elle n'a pas d'établissement.
Il faut un extrait. Même, par exemple, les sociétés monégasques, tu vois, tu as un extrait, machin. Quoi. Ou les statuts, ou la copie des statuts.
La copie des statuts.
Oui, ou les statuts.
Oui, tu as la copie
ou les statuts traduits.
Ou tu as. Oui,
ah bah oui.
Eh oui.
Eh oui.
Oui.
C'est toi, c'est la surenchère.
Ok. Alors, voilà, l'adjudication est terminée. Vous avez été déclaré adjudicataire, mais vous avez quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est la possibilité de surenchère pendant le délai de 10 jours. Donc la surenchère, c'est les articles R322-50 à R322-55 du CPE. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez 10 jours à compter de l'audience d'adjudication pour faire votre surenchère. Toute personne peut faire une surenchère du dixième du prix principal de la vente. Alors il faut oublier le principe qui est un vieux principe, parce que maintenant la loi elle a changé depuis je ne sais pas combien de temps, où on vous disait qu'il fallait consigner également les frais préalables. Là non, on est juste sur les 10% de la mise à, de l'adjudication sur laquelle vous faites surenchère. Donc les principes fondamentaux de la surenchère, c'est que le jour de l'audience de surenchère, l'adjudication repart dans les mêmes conditions que si c'était la première adjudication, sauf sur la mise à prix qui a été modifiée puisqu'elle a été augmentée du dixième. D'accord ?
Donc, mettons qu'il ait été vendu à 200, que quelqu'un fait une surenchère d'un dixième, la nouvelle vente, elle repart sur les 200 plus un dixième.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
D'accord.
Voilà.
Alors non,
ah non.
C'est vous qui avez 10 jours pour déposer votre déclaration de surenchère. Et après je vais
voilà,
vous dérouler,
c'est le
vous allez voir,
vous
c'est le greffe qui va fixer. Et en fait, votre déclaration de surenchère, elle vaut demande de fixation d'une nouvelle date d'audience d'adjudication. Et à partir de là, la greffière va fixer une nouvelle date d'adjudication. Bien sûr, je vais vous expliquer tout ça. Je vais t'expliquer.
On va y arriver.
Je sens que la surenchère, ça vous fait de l'effet. Hein. Oui, je vois. Hein. Non, pas tout à fait. Le deuxième principe, c'est que si la surenchère à la nouvelle audience d'adjudication n'est pas couverte, que personne n'ouvre la bouche, le surenchérisseur est déclaré automatiquement adjudicataire. Ça, c'est l'autre principe de base. Et le dernier principe de base, c'est un vieil adage qui dit que surenchère sur surenchère ne vaut. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire surenchère sur une surenchère. Voilà. Alors, qui peut faire surenchère ? Toute personne dit texte, personne physique, personne morale. Il y a les mêmes limites que pour l'adjudicataire. Donc les limites de condamnation, les incapacités tenant aux liens familiaux éventuellement avec le débiteur saisi. Et d'ailleurs, à cet égard, j'ai en fouillant un petit peu, j'ai notamment trouvé un arrêt de la Cour de cassation de 2007 qui est assez intéressant, qui était une surenchère qui avait été mise en place frauduleusement par le saisi sous couvert d'une SCI. Et la Cour de cassation a jugé que dans le cas d'une SCI créée 6 mois avant l'adjudication par la débitrice saisie, qui en était la gérante, et ses enfants, tous domiciliés dans l'immeuble objet de la saisie. Et alors que la seule résolution adoptée par les associés tendait à conférer tout pouvoir à la gérante pour se porter acquéreur au nom de la société de l'immeuble saisi, le tribunal a souverainement retenu que la création de la SCI constituait une fraude destinée à faire échec à la vente sur adjudication et donc la surenchère a été annulée en violation de l'interdiction d'enchérir pour la partie saisie.
Alors, parce que c'était une société de personnes. Imaginons avec une société de capitaux.
Oh, Daniel.
Ah bah, il y a
la personnalité
de ses gérants.
Non, c'est très dur à démontrer quand c'est des sociétés, c'est très dur à démontrer si jamais le nom du débiteur n'apparaît pas.
C'est ça que je me dis.
Alors,
parce que
c'est valide, tu peux rien dire. Même si on le sait, tu peux rien dire.
Tu sais qu'en réalité, stratégiquement, là, ça, c'est pas juridiquement, c'est stratégiquement. Moi, il m'est arrivé de soulever, au moment où je regardais par-dessus l'épaule de l'adjudicataire, qu'il était le frère, ou voilà, de soulever la nullité des enchères. C'est, je ne le ferai plus jamais. Plus jamais. Si le juge ne le soulève pas d'office, je ne le ferai plus jamais. Je suis partie en appel. Ça ralentit ma procédure. Je ne te dis pas comment. Donc, il y a 3 mois, j'ai eu de nouveau le cas. Cette fois-ci, c'était la concubine. J'ai laissé faire. Il n'a pas consigné les fonds. Et donc, du coup, au bout de 2 mois, je suis repartie en réitération des enchères. J'ai recommencé ma procédure. C'est beaucoup plus simple et confortable que d'aller sur la nullité. Bon, malgré tout, parce que vous avez quand même problème de responsabilité si vous le faites quand même, de pousser les enchères pour quelqu'un dont vous savez qu'il est en lien direct avec le saisi. Attention aussi, ça c'est un point important, c'est qu'un avocat qui a été adjudicataire pour le compte d'une personne ne peut pas faire surenchère pour une autre personne sur son propre client. On l'a déjà vu, donc c'est pour ça que je vous dis. Vous ne pouvez pas prendre un autre client pour pouvoir sur un chat.
Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir plusieurs mandats?
Ah, ça non plus.
Ah, bah non, ça non plus. Ah, bah non, tu ne pousses que pour une personne, une mesure. Ça, voilà. Ça aussi, on l'a vu.
Non, non, tu peux pousser pour une personne. Alors, les effets de la surenchère sur la première adjudication, c'est un anéantissement total. C'est comme si la première adjudication n'avait pas existé. Les parties sont remises dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à l'adjudication. Ce qui veut dire que vous avez pu faire une surenchère, payer tous les frais qui vont avec la surenchère, et puis le débiteur paye la créance. Eh bien, tout est anéanti.
Bon, vous récupérez vos sous quand
même. Oui, bon, vous récupérez. Et sous réserve évidemment éventuellement d'une subrogation d'un créancier inscrit qu'on a oublié. Par exemple, ça arrive aussi, le conseil du débiteur est tellement focalisé sur le créancier poursuivant qu'il en oublie des créanciers inscrits. Donc ils ont tout payé, les frais de saisie immobilière, la créance du créancier poursuivant, ils pensent que c'est sauvé et bim, à l'audience, subrogation du créancier inscrit dont on parlait tout à l'heure et ça repart à la vente.
Et donc on a dit tout à l'heure qu'il fallait que la somme soit conséquente à récupérer parce que sinon c'était sur une petite
somme. Exactement, okay. Voilà. Donc, attention, vous ne pouvez pas rétracter une surenchère. Lorsque vous avez fait lancer la surenchère, c'est fichu, ça va jusqu'au bout. Et, par contre, vous pouvez faire une surenchère après une réitération des enchères. Alors ça, c'est-à-dire qu'il y a eu une adjudication. La personne n'a pas payé le prix. C'est ce qu'on appelait avant la folle enchère. Donc, le créancier poursuivant va mettre en place la procédure de réitération des enchères pour que les enchères soient reprises. Donc, le bien est vendu sur réitération des enchères. Et après cette adjudication, vous pouvez faire une surenchère. Ça ne pose pas de problème. Donc, comment faire surenchère? La surenchère, c'est l'article R322-51. À peine d'irrecevabilité, elle est formée par acte d'avocat. Elle est déposée au greffe du juge de l'exécution dans les 10 jours qui suivent l'adjudication. Et elle vaut demande de fixation de l'audience de surenchère, comme je vous le disais. Et dans le cadre de cette demande de surenchère, cet acte de surenchère, il y a une pièce hyper importante, c'est que l'avocat doit attester qu'il s'est fait remettre de son mandat une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque de 10% du principal de la vente. Et cette attestation, elle est hyper importante, c'est une condition de recevabilité, elle pourra être soulevée comme une condition de nullité si elle n'est pas jointe. C'est hyper important aussi parce que ça remet le rôle de l'avocat quand même au cœur de la procédure parce que c'est sur votre seule foi, à partir du moment où vous attestez que vous avez le chèque de banque en main, on vous croit. Je vous dis ça, tout le monde me regarde comme si c'était un suspense, mais parce que c'est un vrai problème qu'on a déjà eu dans le cadre des surenchères. C'est des confrères qui font ces attestations alors qu'ils n'ont pas les chèques de banque ou qu'ils les ont postérieurement à l'expiration du délai de surenchère. Donc ils ont fait l'attestation qu'ils l'avaient, mais ils ne l'avaient pas et ils l'auront 3 jours après. Ça pose un vrai problème inhérent à notre robe quand même, hein, puisqu'on atteste de quelque chose qui n'est pas vrai.
C'est un faux.
Et c'est aussi susceptible de finir devant le bâtonnier.
Voilà aussi. Voilà. Alors voilà, au-delà du crédit qu'on voit à notre robe, imaginons que à l'audience de surenchère, le chèque de banque soit produit et que sa date soit postérieure à l'attestation. Est-ce que ça suppose une nullité de l'attestation?
Alors,
nullité de la surenchère.
Nullité de la surenchère.
Oui, sauf que tu as un délai pour contester la surenchère et que ça pose un vrai problème. Et qu'en plus, tu n'as pas. Et oui, c'est ce que je vais vous expliquer après. Et qu'en plus, dans la mesure.
Mais non. Mais non.
Et dans la mesure où le confrère atteste qu'il a le chèque de banque, tu ne vas pas lui demander de le produire. Tu ne vas pas lui demander de le produire.
Tu peux.
Mais tu pourrais, oui, mais enfin, on a une procédure où ça a été demandé et où le confrère a refusé de le produire dans la mesure où il a dit vous devez me croire sur parole puisque je l'atteste. Voilà, donc
c'est le.
Bon, ça n'arrive pas souvent. Hein. Voilà, alors. À ce stade, est-ce que l'avocat doit s'enquérir de la solvabilité de son client plus que nécessaire? Non, la Cour de cassation en 2010, elle a censuré une décision de la Cour d'appel qui avait annulé une déclaration de surenchère au motif que l'avocat n'avait pas suffisamment examiné la situation patrimoniale de l'intéressé. À partir du moment où on s'est fait remettre les 10% nécessaires, il n'y a pas de raison d'aller au-delà, normalement, de la recherche de solvabilité. Donc, comme je vous disais, l'exigence que l'attestation soit accompagne la déclaration de surenchère, c'est une condition d'irrecevabilité, sinon, qui peut être constatée par le greffe au moment où vous la déposez. Hein. Et par contre, alors, la Cour de cassation a également précisé en 2012 qu'aucun texte n'impose à peine d'irrecevabilité de surenchère l'encaissement par l'avocat du surenchérisseur du chèque de banque. Vous pouvez juste le détenir et attester que vous l'avez détenu, mais vous ne l'avez pas consigné. Okay, vous n'êtes pas obligé de le consigner, tout à fait. Donc, que contient une déclaration de surenchère? Vous devez faire la mention de l'identité du surenchérisseur, de son avocat, de la nouvelle mise à prix augmentée des 10%, et, comme je viens de lourdement insister, la mention de l'attestation que vous annexez à votre déclaration de surenchère. Et cette déclaration de surenchère, elle va permettre à la greffière de fixer la date... la nouvelle date d'adjudication. Mais, ça serait trop facile, cette déclaration de surenchère, vous avez 3 jours ouvrables pour la dénoncer à toutes les parties. Voilà. C'est là que c'est difficile parce que vous êtes quand même l'adjudicataire. Lui, c'est vraiment le tiers de tiers à la procédure de saisie immobilière. Il a peu de temps, 10 jours, puis après 3, pour recoller, récupérer tous les renseignements. Donc, il faut qu'il ait tous les créanciers. Le créancier distribuant, le débiteur, les adresses, les avocats éventuellement constitués pour faire sa dénonce dans les 3 jours. Une dénonce qui doit rappeler toutes les dispositions des articles R311-6, qui doit annexer une copie de l'attestation de l'avocat et qui doit rappeler le délai pour contester la surenchère, et ce délai, c'est 15 jours. C'est un huissier qui va dénoncer cette surenchère si les parties, si certaines des parties n'ont pas constitué avocat, bien évidemment. Sinon, c'est le RPVA. Hein, donc, du coup, le délai paraît moins difficile à... voilà. Alors, attention, la Cour de cassation considère que ces 3 jours sont 3 jours ouvrables, nécessairement. Et la sanction de l'absence de dénonce, c'est l'irrecevabilité de la surenchère et non pas la nullité. Donc, il n'y a pas lieu de prouver l'existence d'un grief. En cas de pluralité d'adjudicataires, ça peut arriver, il faut dénoncer à tous les adjudicataires, même s'ils sont représentés par le même avocat. Donc, vous allez faire 3 actes, s'il y a 3 adjudicataires, 3 actes différents. Alors, on n'en a pas trop parlé, mais c'est aussi un problème dans la procédure. C'est les licitations qui ont un petit peu un régime à part, mais qui aboutissent aussi à une audience d'adjudication. Donc, par contre, en cas de licitation, vous n'avez pas d'obligation de double dénonce de la surenchère à la personne qui a à la fois la qualité de co-indivisaire et la qualité d'adjudicataire par substitution. Parce que, vous, je ne sais pas, on n'en a pas vraiment évoqué, mais dans les cahiers de conditions de vente des licitations, il est prévu que les co-licitants peuvent faire jouer une faculté de substitution à l'adjudicataire. C'est une fois que l'adjudication est prononcée, ils déposent une déclaration en greffe en disant « hop, je me substitue à l'adjudicataire aux conditions de l'adjudication, c'est-à-dire au prix de l'adjudication ». Eh bien, dans ce cas-là, dans le cas de la surenchère, vous n'avez pas obligé, parce que là, ce type qui s'est substitué, cette personne qui s'est substituée, elle est co-indivisaire et elle est adjudicataire. Mais vous n'êtes pas obligé de dénoncer 2 fois. Vous dénoncerez une seule fois, puisqu'il a la double casquette. Je ne sais pas si j'ai été claire. C'est bon ? Oui. Alors, il y a aussi, ça fait partie des joies quand on prépare une formation, vous devez dénoncer la surenchère au preneur rural bénéficiaire d'un droit de préemption. C'est au terme de l'article L412-11, alinéa 2. Oui, enfermé, tout à fait. In fine, du code rural et de la pêche maritime. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, voilà, si vous
ça
êtes sur un bien...
Dans la région, mais
non, mais ça arrive dans l'arrière-pays, des fois, quand même. Voilà, et d'ailleurs, ce preneur rural peut intervenir dans l'instance en validité de la surenchère. Donc, on en arrive à la contestation de la surenchère. Il y a toujours un intérêt à contester la surenchère, surtout si vous étiez l'adjudicataire initial, que vous estimez l'avoir... acquis dans des conditions optimum ou parce que vous aviez un besoin tout à fait vous aviez besoin de ce bien. Moi, ça m'est arrivé une fois de tenter de contester une surenchère parce que ma cliente avait acquis un parking à proximité de son immeuble, un parking, et que sa fille était handicapée, donc elle avait toutes les raisons de vouloir cette place de parking sur laquelle elle lorgnait depuis des années. Donc voilà, donc l'adjudicataire peut avoir un motif de de contester la validité de la surenchère. Donc vous avez 15 jours à compter de la dénonce et vous pouvez invoquer que la dénonce a été faite hors délai, ça entraîne l'irrecevabilité, ou l'absence de la fameuse attestation de l'article R322-52, ou que la société qui a formé la surenchère est destinée à dissimuler le débiteur saisi, jurisprudence que je vous ai indiquée tout à l'heure. Toutes les contestations se font par voie de conclusion. Alors, vous allez devoir les déposer dans le délai de 15 jours, mais vous n'êtes pas lié, c'est-à-dire que si par la suite, en préparant votre audience de contestation, vous vous apercevez qu'il y a un motif qui vous vient de nouveau à l'esprit, vous pouvez déposer de nouvelles conclusions pour ajouter à votre contestation. Le déroulement, donc, et le juge va trancher la contestation, il rendra un jugement, soit il valide votre contestation et il considère que la première adjudication est valable, donc on se retrouve dans les conditions de l'adjudication initiale, soit il balaye la contestation de la surenchère et il fixe la nouvelle audience de surenchère dans son jugement. Donc le déroulement de la procédure de surenchère, donc l'audience sera fixée par le juge dans une date qui est comprise dans un délai entre 2 et 4 mois, suivant la déclaration. Le greffe va aviser toutes les parties, le texte dit par courrier recommandé avec accusé de réception, mais j'ai l'impression qu'à Nice, nous, on est convoqués par lettre simple. Comme il s'agit d'une nouvelle vente, il faut procéder aux formalités de publicité. Alors, le surenchérisseur peut les assumer, mais en règle générale, c'est le créancier poursuivant parce qu'il a tout dans son ordinateur qu'il a juste à relancer. La procédure. Le jour de l'audience d'adjudication sur surenchère, les enchères se déroulent normalement, comme si c'était une adjudication lambda. Si personne ne pousse les enchères, comme je vous ai dit tout à l'heure, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Mais sinon, les enchères peuvent reprendre normalement, et même l'adjudicataire initial peut évidemment participer aux enchères. Une fois que l'adjudication est prononcée, les suites sont identiques à une adjudication normale. Vous allez devoir consigner, payer les émoluments, les frais préalables qui généralement ont un peu augmenté puisqu'il y a, il y a une deuxième publicité, il y a tous les frais inhérents à la surenchère. Donc la rémunération de l'avocat surenchérisseur, ne la perdons pas de vue. Vous avez des petits émoluments de formalité qui vont être perçus à votre bénéfice, c'est-à-dire que là, vous allez rire, je pense, quand je vais vous les annoncer. Vous avez un émolument pour déclaration de surenchère qui est de 19,23 euros. Vous avez un émolument pour rédaction de la dénonce de surenchère au créancier poursuivant, au premier adjudicataire et au débiteur et au créancier inscrit, qui est un émolument de 15,38 euros. Mais de toute façon, vous aurez l'émolument de vente qu'on verra aussi tout à l'heure. Et surtout, pensez à faire tenir à l'avocat qui poursuit la saisie immobilière, qui a fait les pubs et qui va refaire un état de frais pour l'adjudication, tous vos frais d'huissier, vos frais de dénonce, tous les frais que vous avez engagés, vous faites suivre les factures, ça sera inclus dans l'état de frais et donc votre client ou vous pourrez en obtenir remboursement. Tout à fait. Et puis vous aurez droit. Tu ne le faisais pas ?
Non.
Et ben voilà. On en est à la conciliation du prix de vente, puisque l'adjudication est définitive, que ce soit l'adjudication initiale ou l'adjudication sur surenchère. Donc, que se passe-t-il une fois que l'adjudication est définitive? Où, quand et comment consigner? C'est l'article L322-9 du CPCE. Vous allez payer le prix d'adjudication sur le compte séquestre. C'est Cécile à la CARPA que tout le monde connaît. Et vous allez devoir aussi payer les frais de vente et les émoluments, on va en parler. Donc l'adjudicataire ne peut faire aucun acte de disposition avant le versement ou la consignation et le paiement des frais, sauf, et je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure, sauf constituer une hypothèque qui serait l'accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition du bien. Donc on peut parfaitement faire un prêt, on a un délai très court, il faut l'avoir un peu préparé puisqu'on a 2 mois, mais on peut parfaitement faire un prêt et un notaire peut parfaitement inscrire une hypothèque conventionnelle pour garantir ce prêt, même si vous n'avez pas encore tout payé, puisque le but c'est de vous aider à payer. Voilà.
Oui, seule chose à faire aussi avant l'expiration du délai du jour, votre client est propriétaire au sens juridique du terme, donc assurez le bien.
Oui, tout à fait, oui.
Parce que s'il brûle dans les 10 jours, vous êtes quand même dans la panade.
Tout à fait.
Donc, c'est qu'il n'y aura
C'est l'avantage.
Tu es tranquille, oui. Donc, que va faire le créancier poursuivant ? Il va vous écrire pour vous envoyer l'état de frais tel qu'il a été taxé et pour vous demander le montant de ses émoluments. Donc, le paiement rapide de l'état de frais des émoluments permet au créancier poursuivant de déposer une quittance au greffe et c'est la quittance qui déclenche la délivrance de votre titre, que vous allez devoir publier, ça on va revenir, et qui aussi déclenche la petite lettre des impôts qui va vous demander les droits de mutation que doivent payer votre client adjudicataire. Alors, je vous ai dit, les fonds du prix d'adjudication sont déposés sur un compte consignation-vente à la CARPA auprès de Cécile. Hein. Ce n'est pas sur un compte procédure ni sur un compte maniement de fonds. Attention, c'est très, très...
C'est pénal. C'est pénal.
Oui, c'est pénal, voilà. Vous avez 2 mois à compter de l'adjudication pour payer l'intégralité du prix. Et l'article L322-9 alinéa 1 dit qu'à défaut de versement ou de consignation du prix et des frais émoluments, la vente est résolue de plein droit. Et dans ce cas-là, on pourrait partir sur une réitération des enchères. Alors, en règle générale, le créancier poursuivant, quand même, est assez tolérant, surtout si vous le tenez informé de l'avancée des opérations par votre client pour obtenir le prix d'adjudication. Il va attendre. Mais bon, il faut quand même prendre en considération que c'est à la convenance du créancier poursuivant. Mais de même, si vous dépassez le délai de 2 mois, le prix d'adjudication est susceptible de générer des intérêts dont le créancier poursuivant va également vous donner la consignation. D'où là aussi l'importance de la lecture du CCV parce que ce taux d'intérêt en cas de délai pour consigner est mentionné dans le CCV. Donc il faudra que vous ayez pu avertir votre client que s'il a des difficultés pour rassembler les fonds, on peut lui demander des intérêts et le taux des intérêts qui est prévu justement par le créancier poursuivant. Bon, on n'est pas non plus des pots de vache, hein. On ne demande pas des intérêts quand vous avez excédé. Enfin, nous, on parle pour nous parce qu'après tout, je ne voudrais pas m'engager pour les autres confrères. Mais en règle générale, on comprend que ça prend du temps de mettre en place. 2 mois, c'est très court pour mettre en place un prêt ou pour récupérer les fonds.
Imaginons qu'il n'obtient pas de prêt, en fait. C'est la banque qui refuse le prêt.
Ça,
c'est la responsabilité de ton client. C'est-à-dire, c'est à lui, avant de pousser les enchères, ouais, d'avoir un accord de principe de sa banque.
Sur un montant et sur un accord
de principe. S'il n'y a pas de conditions suspensives en matière de vente par adjudication. Donc après, c'est perte et péril. Voilà, il perdra ses frais et émoluments qu'il a consignés, c'est perdu. Ouais. On ne lui rend pas après.
Hein. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est que... Elle m'a encore volé mon truc. C'est que ce que vous avez payé, parce que vous allez les payer tout de suite, c'est-à-dire les émoluments, évidemment que vous les faites payer tout de suite, hein, les nôtres et les vôtres. Voilà. Et puis les frais préalables, si malheureusement il n'a pas le prêt, qu'il ne peut pas payer l'adjudication, que la vente est résolue, qu'elle repart sur une autre adjudication, ça c'est perdu, on ne vous le rend pas. Donc, il faut bien border. Et ça peut même être pire, parce que bon, ce n'est pas tellement le propos ici de l'aborder, mais si vous avez un prix d'adjudication qui n'est pas payé, le bien repart aux enchères et il est vendu à un prix moindre. Votre client pourrait être tenu de la différence. Voilà. Et il pourrait être assigné par le créancier poursuivant, qui finalement y a perdu, puisqu'il n'a pas obtenu autant, pour payer la différence. Moi, ça m'est arrivé, j'ai dû le faire pour une banque, et on a saisi, enfin, ça m'a fait 2 saisies en une d'ailleurs, c'était bien, non, je plaisante, et on a saisi le bien de l'adjudicataire défaillant qui n'avait pas pu payer, parce qu'il y avait un énorme différentiel, parce qu'il avait fait monter... pensant sauver son bien et en réalité il s'est mis plutôt dans la panade, il en a perdu un deuxième. Voilà. Donc le paiement des frais reste acquis et les émoluments doivent être payés, ça en plus du prix de vente, hein, il faut le dire au client parce que des fois il tombe un petit peu des nues sur les émoluments. Alors, les émoluments sont calculés sur le prix d'adjudication. Si vous avez une vente par lot, l'intérêt du litige qui va servir de base, c'est le prix de chaque lot. Normalement, je vous ai mis... Voilà. Alors, le mieux, c'est d'avoir le logiciel, hein, parce que alors là, j'ai essayé de vous expliquer des maths, moi qui suis nulle en maths, et en plus, j'ai le logiciel, mais c'est le calcul des émoluments, c'est l'article A444-191, premièrement, du Code de commerce, qui permet qu'on nous percevions un émolument qui correspond un peu à celui que perçoivent les notaires, et qui est réparti à hauteur de 3/4 pour le créancier poursuivant et 1/4 pour l'avocat adjudicataire. Donc vous avez là c'est par tranche d'assiette.
Alors,
j'ai fait de... Bon, c'est clair, non? Vous avez tout compris du premier coup. La lecture. Donc, sur les tranches, je vous ai mis un exemple de, pour une vente qui était intervenue au prix de 200 000. Sur la première tranche qui va de 0 à 6500, vous avez un taux applicable qui est de 7,256, qui fait un 471,64.
Logiciel.
Ah, mais alors le logiciel, ça vous sauve la mise. Ou alors le mieux aussi,
oui, sinon
c'est que comme le créancier poursuivant va vous écrire en vous disant, voilà, vous me devez telle somme, ça correspond à 3 quarts, vous divisez par 3 et vous avez votre quart. Voilà. Donc, voyez par tranche ce que ça fait, vous additionnez. Vous avez un évolution global de 3739. Et du coup, partagez 3 quarts, 1 quart. Je vous ai mis là, pour vous voyez, mon super logiciel qui fait tout seul. J'ai une petite case, je rentre le montant de l'adjudication et il me sort ça. Voilà. Alors, attention, oui, ça, c'est du hors-taxe. Ne pas oublier la TVA. C'est clair pour vous?
Je suis pas sûre que tu les aies convaincus sur ce coup-là.
Non, je vois bien, non mais...
Non, parce que tiens, c'est sous la TVA, ça. Je n'aurais pas pensé. Voilà.
Ah oui, c'est des honoraires. Tes émoluments, c'est comme des honoraires. Tu ne les mets pas sur le compte procédure.
Non, mais je
donc,
ne pensais pas.
C'est bon pour vous? Ouais. Alors voilà, donc on a payé les émoluments, on a payé les frais taxés par le juge, on a payé les droits d'enregistrement qui vous ont été appelés directement par le Trésor public qui va vous écrire et vous en donner le montant. Du coup, le greffe, on lui a déposé la quittance, le greffe sait que tout va bien, il vous délivre le titre. Et là, il faut publier.
Alors, ça fait...
Donc, juste, oui. Donc c'est un quart de 200 000 euros, plus les frais, le guichet, les compagnies, tout ça, ou c'est autre chose, ça? Donc,
là, ce sont que tes émoluments, c'est-à-dire que c'est des sous que tu récupères pour toi.
Pour l'avocat. Après, les frais, c'est autre chose.
C'est dans un état de frais qui est établi, qui sont les frais de procédure, avec les petits émoluments, les petits UV dont je t'ai parlé. En fait, on appelle ça des émoluments de formalité, ce sont des petits UV. Et tout ça, c'est mis dans un état de frais qu'on soumet au juge qui le taxe. Et c'est aussi payé en plus par l'adjudicataire, mais c'est une somme à part. Après, ça s'est réparti les huissiers, les frais de publicité, voilà. Ça correspond à ça. Donc on publie.
On publie, ça y est, vous avez presque fini. On doit juste publier l'acte que la greffière vous a remis dans la case. Alors, c'est un gros pavé en deux tomes, on va dire. Vous avez l'acte de vente en lui-même et vous avez ce qu'on appelle le bordereau hypothécaire, c'est-à-dire c'est exactement le même, mais avec les petits carrés des hypothèques. Ne le laissez pas sur le coin du bureau, je vous en supplie, publiez-le, c'est simplissime, vraiment, c'est très très facile à faire, ça ne coûte pas grand-chose, et de toute façon c'est votre client qui payera les frais, et en plus vous pouvez mousser auprès de votre client et demander des honoraires pour le faire. Donc sincèrement, faites-le, c'est très simple, il y a deux choses, voilà, vous faites un extrait d'acte, c'est ça, compatible, je vous avais envoyé, vous allez voir, c'est le seul document voilà, à joindre, c'est ça. Vous n'avez plus besoin de modèle 1, parce qu'avant, il fallait mettre l'extrait modèle 1 qu'on mettait 6 mois à avoir. C'est fini, c'est plus la peine.
Je vais envoyer tes pièces. Hein. Voilà.
Yes. Donc, l'extrait d'acte. Donc, vous allez sur Google, vous faites CERFA 2651 et il vous le donne en vierge. Et après, vous n'avez plus qu'à remplir les cases. Alors, c'est très simple. Vous voyez, tribunal judiciaire de Nice, chambre de l'exécution immobilière, c'est le rédacteur de l'acte. Jusque-là, c'est dans nos cornes. Jugement d'adjudication, vous mettez la date. Ancien propriétaire, donc le débiteur saisi. D'où l'intérêt d'avoir le cahier des conditions. Enfin, sur votre acte de vente, vous avez toutes les informations. Vous n'avez rien à demander à personne. Nouveau propriétaire, votre client. L'identification du bien, vous allez dans votre acte, vous allez avoir désignation, toc, vous recopiez. Ou si l'avocat poursuivant est sympa, il vous l'envoie en Word et vous faites un copier-coller. Origine de propriété, vous l'avez aussi dans votre cahier de conditions de vente, vous avez un petit paragraphe qui s'appelle origine de propriété, c'est quand est-ce que le débiteur avait acheté son bien, vous le mettez, jouissance toujours immédiate, et vous mettez le prix auquel vous l'avez acheté en dernier. Vous joignez ça à votre pavé, vous faites un joli courrier au service de publicité foncière en lui disant voilà, je vous prie de trouver 6 juin.
Ah ben génial.
Je vous prie de trouver 6 juin la copie certifiée conforme du jugement, donc c'est le premier tome. Le deuxième tome, celle qui est le bordereau hypothécaire. L'extrait d'acte, ici. Le certificat d'identité, alors ça c'est tout bête, c'est vous qui faites une phrase en disant « je sous-signais maître machin, y demeurant avocat au barreau de Nice, certifie l'identité des parties » et c'est tout. Vous pouvez le mettre en modèle et vous le joignez dans tous les cahiers, ça c'est pas un souci. Et vous demandez un état hypothécaire sur formalité, c'est-à-dire la fiche 3233, pour qu'on vous le renvoie et qu'on vous mette les mentions des publications en disant c'est bon, on vous l'a pris, c'est publié à telle date, tel truc. Et ça, pitié, vous nous le donnez. Vous nous le mêlez juste. Vous pouvez le garder, c'est pas un souci, mais juste vous nous le mêlez. Parce que nous, on en a besoin pour faire notre procédure de distribution derrière. Ça, plus, une fois que vous allez, le service, une fois que vous avez envoyé tout ça avec les frais que je vais vous expliquer, le service de publicité foncière va vous rendre l'acte avec la fameuse étiquette blanche en disant c'est publié, bravo, vous êtes le meilleur. Ça, vous imprimez juste vous photocopiez juste la première page et avec l'état sur formalité, vous le mêlez au créancier poursuivant. On vous sera indéfiniment reconnaissant et on pourra débuter notre procédure de distribution.
Puisqu'on m'a dit que si ça tardait, on ne peut pas commencer à
procéder. Non, on ne peut pas. Voilà. Et on a besoin. Alors le juge maintenant demande la première page aussi parce que. En fait, l'état sur formalité n'atteste que du dépôt de votre publication, pas de la publication. Imaginons qu'il y a un rejet ou un refus ou machin, ça peut arriver, ce n'est qu'un dépôt. Donc il demande à ce qu'on ait la photocopie de l'étiquette blanche. Ensuite, avec ce joli courrier, le certificat d'identité et l'extrait d'acte, il faut joindre évidemment, on est en France, un chèque. Alors, c'est très simple, c'est pas compliqué. Quand il s'agit d'un jugement d'adjudication, vous prenez votre prix de vente plus les frais préalables, hein, pas les émoluments, uniquement les frais préalables. Donc vous avez, je ne sais pas moi, 100 000 euros et 6 000 euros de frais, vous faites sur 100 000 euros et vous faites 1 pour 1000. Si c'est 100 000 euros, c'est 106 euros. D'accord ? Donc vous faites un petit chèque de 106 euros et c'est les frais de publicité foncière. Alors vous rajoutez 14 euros pour l'état sur formalité, ça c'est, voilà, pour le 3233, mais ça c'est classique. Mais c'est, voilà, c'est toujours 1 pour 1000. Plus le 18 euros quand c'est une adjudication et plus 2 euros quand c'est une licitation. Je ne sais pas pourquoi, ça coûte moins cher, mais ça, c'est une science occulte, hein, les frais d'hypothèque judiciaire. Donc, les frais à joindre avec le courrier, c'est quand c'est un jugement d'adjudication sur vente forcée, c'est 1 pour 1000 plus 18 euros. Et quand c'est une licitation, c'est 1 pour 1000 plus 2 euros. C'est simple, vous mettez le petit chèque et vous envoyez et c'est fini. Et vous facturez votre client en plus. Une fois que vous avez ça, quand vous êtes adjudicataire, votre client peut vous dire « Oui, mais moi j'aimerais bien le revendre assez vite, il y a des inscriptions dessus, comment on fait ?» La radiation des inscriptions. Alors il y a deux types, soit vous attendez la procédure de distribution, mais ça peut tarder. Et là, c'est le créancier poursuivant qui s'occupe de provisionner les frais de radiation parce qu'en principe ils sont à la charge du débiteur et pas à la charge de l'adjudicataire et il peut se charger et il se chargera de la radiation des inscriptions quand il aura son ordonnance homologuant le projet de distribution. Il y aura également inscrit dans l'ordonnance merci de procéder à la radiation des inscriptions qu'il y a sur le bien, et ça c'est le créancier poursuivant qui l'envoie au service de publicité foncière pour que le service de publicité foncière radie toutes les inscriptions en disant c'est bon, le bien est vierge de tout truc, tout va bien. Soit votre client veut absolument revendre très rapidement et il n'a pas le temps d'attendre la fin de la procédure de distribution, il peut demander la radiation urgente de ses inscriptions par voie de requête au GEX. Le seul, on va dire, désavantage, inconvénient, c'est que vous allez régler le montant des radiations, mais après, par contre, dès que vous avez la facture du service de publicité foncière, si le GEX, évidemment, vous a autorisé à procéder à la radiation des inscriptions, vous les donnez au créancier poursuivant qui les mettra dans les frais privilégiés de distribution et vous en serez remboursé. Parce que ce n'est pas à l'adjudicataire de les payer, c'est au débiteur. D'accord ? Donc deux méthodes, tout dépend si vous êtes pressé ou pas.
On m'attend, l'autre on fait l'avancée.
Voilà. Mais il ne faut pas oublier de les remettre au créancier poursuivant parce qu'il ne peut pas le deviner lui. Surtout qu'il risque de demander la provision deux fois si vous ne lui dites pas. Donc c'est un peu bête.
C'est bon ?
La prise de possession du bien.
Donc
ça y est, vous avez radié, votre bien est vierge, vous avez publié, tout est nickel. Maintenant votre adjudicataire, votre client veut rentrer dans les lieux, il a les clés, ça y est, on y va. Et alors il y a plusieurs cas, soit il est occupé, soit il est squatté, soit il est libre, Oui, ça c'est le cas rêvé, mais bon. Il faut savoir que vous êtes propriétaire au jour du jugement. Donc, à penser, comme je vous l'avais dit, à assurer le bien. Et surtout, penser à changer les serrures si jamais il est libre. Parce que les squats, ça va vite. Quand ils savent qu'il y a un bien libre, ils aiment bien s'y mettre. Donc, changer les serrures. Vous n'avez pas besoin d'attendre la publication, etc. Allez-y, vous êtes propriétaire au sens juridique du terme. Attention, alors, s'il est occupé, deux cas. Il est occupé par un locataire. Là, vous avez le contrat de bail qui vous est opposable. Il faut faire attention à la date du contrat de bail. Si le contrat de bail est en date postérieure à la publication du commandement de valant saisie du créancier poursuivant, votre bail n'est pas opposable parce que le débiteur n'avait pas le droit de contracter un bail pendant une procédure de saisie mutuelle parce que le propre du commandement valant saisie, c'est qu'il rend le bien indisponible. Donc là, vous pouvez dire au locataire, non, votre contrat de bail, il m'est pas opposable, je suis désolée, mais je n'ai pas à m'y conformer.
Il ne peut pas partir, donc c'est devoir se dire un juge probateur.
Voilà, mais là, tu as un moyen juridique, on va dire, de voilà. Le mettre dehors.
Et en disant que lui, le moyen juridique, c'est dire que contrairement à ce qu'on pense, il est attitré.
Voilà. Si par contre, son contrat de bail est antérieur à la saisie, là, le contrat de bail est opposable à vous, s'il est de 3 ans, s'il est de 6 ans, s'il est de 9 ans, vous êtes dedans. J'allais dire après dans les conditions de droit commun, vous pouvez faire un congé, etc. Mais c'est du droit commun, c'est plus de la saisie. S'il est squatté, c'est mieux, on va dire. ou si c'est le débiteur qui est dedans, alors là c'est encore mieux. Parce que là, votre jugement d'expulsion vaut titre d'expulsion. Vous n'avez pas besoin d'aller devant le juge pour demander la résiliation ou l'expulsion. Votre jugement d'adjudication, vos titres d'expulsion, donc vous donnez ça à votre huissier habituel et il se chargera de faire le boulot. La seule différence qu'il faut faire, où il faut faire attention, c'est si jamais c'est un jugement d'adjudication sur licitation, ça ne vaut pas expulsion, ça ne vaut pas titre d'expulsion. Là, vous êtes obligé de repasser devant le juge et demander l'expulsion parce que ça s'agit des collocitants. Donc faites attention, c'est que en cas de jugement d'adjudication, parce qu'on a usage de dire le jugement d'expulsion vaut expulsion. Non, que en cas de vente forcée, pas en cas de vente sur licitation. Ensuite, le problème se pose de savoir qu'est-ce qu'on fait des meubles qui sont dedans.
Alors, j'ai juste des petites choses à rajouter à l'expulsion du saisie. Parce qu'effectivement... Ça a l'air plus compliqué que ça n'y paraît. En règle générale, ce n'est pas un problème qui se pose très souvent parce que quand les marchands de biens achètent, on a rarement des retours de dossiers. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais ils arrivent toujours à leur fin et à mettre dehors les saisies. Mais je ne sais pas comment ils font.
Non, on ne veut pas savoir.
Non, on ne veut pas savoir. Mais il y a des cas où il peut être prévu le maintien du saisie dans les lieux et on en revient toujours, et oui, C'est tout l'intérêt de faire des formations, en fait. Et on en revient toujours à ce que je vous disais tout à l'heure, il faut toujours bien lire le cahier des conditions de vente. Parce qu'en matière de liquidation judiciaire d'un débiteur personne physique, le tribunal peut accorder en considération de la situation personnelle et familiale de celui-ci un délai de grâce pour quitter la maison d'habitation principale. C'est l'article L642-18 alinéa 6 du Code de commerce et cette décision devra être annexée au CCV. Donc vous le saurez au moment où vous allez pousser les enchères que vous avez peut-être cette difficulté. Par contre, un accord secret qui aurait été conclu entre le débiteur saisi et sa famille qui l'héberge, ça ne vous est pas opposable. Et qu'est-ce que j'avais noté aussi de particulier ? Vous pourrez demander une indemnité d'occupation s'il se maintient dans les lieux et que la procédure d'expulsion tarde à être mise en place. Ça ne pose pas de difficulté. Oui, il y a l'article L722-8 du Code de la consommation. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celle fondée sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière. Donc vous voyez, ces dispositions du Code de la consommation ne s'appliquent pas lorsque vous allez sur l'exécution d'un jugement d'adjudication. Et après, j'ai trouvé une petite jurisprudence aussi de la Cour d'appel de Paris qui a prévu que si le saisi qui se maintient dans les lieux demande l'octroi de délai pour les libérer sur le fondement de L613-1 du Code de la construction et de l'habitation. Même s'il est âgé de 69 ans, même s'il dispose de ressources modestes, le juge a considéré qu'il avait déjà bénéficié de larges délais, puisque la procédure de saisie immobilière est une procédure assez longue et que le jugement d'adjudication intervient très tardivement dans cette procédure. Voilà, donc ça c'était les petits cas particuliers que j'avais notés. Donc les meubles, parce que vous pouvez récupérer aussi un bien qui est très encombré de meubles de toutes sortes.
Et pas IKEA.
Comment ?
Par
exemple, voilà. Ben là, j'ai le cas d'une maison qui a été achetée. Dans le garage, il y a une Porsche.
Voilà.
Voilà. Donc, que faire de ma Porsche ?
Alors,
Gaëlle.
On va pour l'acquise avec le prix.
Non, tu n'achètes que l'immeuble. Que l'immeuble. Que l'immeuble.
Ouais.
Que l'immeuble.
Ni ta commode, ni 14, tu la rends.
Donc d'où l'intérêt de savoir ce qui est dedans et si c'est de valeur ou pas. Voilà, alors si c'est pas de valeur, bon, ouais. C'est pas très grave. J'allais dire le procès verbal descriptif de l'huissier en cours de procédure montrera à peu près l'état de l'appartement et les meubles. Si bon, il n'y a pas un maudit Gliani collé au mur, on est un peu tranquille. On veut dire vous pouvez vous débarrasser et allez-y. Si par contre il y a des biens de valeur ou une Porsche dans un garage par exemple, là, non, vous ne pouvez pas vous en débarrasser, surtout pas, et vous ne pouvez pas la garder non plus.
Ce qui veut dire que quand on va acquérir, par exemple, une ferme, on pourrait acquérir également des immeubles par destination, en fait, en réalité, dans le cadre d'une grande projet.
Ah oui.
Et pas que l'immeuble, c'est pas que
oui, tout à fait.
Oui.
Pareil, voilà. Le débiteur qui saisit qui s'en va ne peut pas décrocher les volets roulants au motif qu'on venait de les changer.
J'ai vu ça, la climatisation, il est parti avec la climatisation.
Donc, la Porsche, qu'est-ce qu'on fait?
Donc la Porsche, il faut faire une requête au GEX et lui dire, voilà, j'ai une Porsche dans le garage, elle n'est pas à moi. Alors le problème de ce type de... c'est que vous allez devoir, que ce soit la Porsche ou les meubles de valeur, les mettre en garde-meuble ou les mettre essai à vos frais, le temps que le débiteur vienne les chercher.
D'accord, il me rembourse les frais quand même à mon
conseil. Au bout d'un moment, vous ne lui dites pas où c'est tant qu'il ne vous a pas réglé les frais. C'est le seul moyen, j'allais dire, qui n'est pas très légal, mais c'est le seul. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention dans ce que vous achetez. C'est vrai que les biens meubles, malheureusement, s'ils sont de valeur, vous êtes censé les conserver aux frais du débiteur. Oui, mais c'est vous qui les avancez. Voilà. Et si jamais le débiteur met 10 ans à venir, vous allez les régler pendant 10 ans. Alors après, il y a des procédures en déshérence, on va dire, ils appellent ça comme ça, une requête. On dit, voilà, les biens sont considérés comme abandonnés, ça fait X années que je paye le garde-meuble, etc. Et là, le juge ordonne la déshérence, et là, vous pouvez du coup vous en débarrasser.
Bon, ça arrive pas souvent, hein.
C'est très, très rare.
Ils viennent récupérer leur maudit Gliani, hein. Ouais. Par contre, ce qui arrive plus souvent, c'est que ce soit de valeur très moyenne ou quasiment pas de valeur, mais que l'adjudicataire ait quand même des scrupules à le mettre directement à la décharge. Et donc, il faut déposer une requête pour se faire autoriser justement à jeter les meubles en considération de l'absence de valeur. Auquel cas, vous aurez fait préalablement faire un constat d'huissier.
D'où l'intérêt de faire le procès verbal descriptif. Alors, soit le procès verbal descriptif qui a été fait durant la saisie est assez détaillé, où il y a des photos et vous voyez bien que les meubles, bon, c'est du IKEA.
Ah, mais tout ça, c'est au frais de l'adjudicataire. C'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça que quand il te mandate pour pousser les enchères, il faut qu'il prenne en considération tous les frais annexes qu'ils peuvent avoir également.
Bon, après, ça fait maintenant 20 ans. Ça fait 20 ans. Je fais ça et j'ai jamais eu le cas encore. J'ai eu le cas une fois pour une voiture et en effet on a fait la requête pour la déclarer épave parce que c'était une épave pour le coup et c'était fini. Mais sinon j'ai jamais eu le principe, les débiteurs ils sont dans une telle panade que de toute façon ils sont plus à leur meuble liqué après quoi.
Voilà.
Sauf quand ils sont allergiques, ils veulent enlever jusqu'au
bout. Sans le vécu.
Ah ouais.
Voilà. Merci pour ce sujet.
Cette procédure de saisie immobilière vraiment pas à pas en nous énonçant tout un tas de pièges, c'était fort instructif. Juste un petit petit message de la part de Françoise. N'oubliez pas de remplir les documents qu'elle vous a remis.
Retrouvez l'UJA de Nice sur internet www.ujadenice.fr.